enfin une manière de commencer ce conseil municipal un peu différente de manière habituelle, mais c'est déjà la méthode qu'on avait employée en fait d'autres fois. On a quand même un gros morceau aujourd'hui à l'heure du jour qui concerne en particulier la résidence intergénérationnelle, puisqu'il y a 3 délibérations qui sont consacrées à cette résidence. J'ai demandé à Monsieur Dex, qui est de la société immobilière Picard, de venir nous faire une présentation, nous parler de sa société, nous parler du projet, nous parler aussi des garanties d'emprunt et peut-être d'autres sujets, répondre aux questions que vous pouvez avoir à poser. Donc, on va commencer par cette partie-là et on ouvrira ensuite officiellement le conseil municipal une fois que cette présentation sera terminée. Voilà en quoi c'est peut-être un peu particulier. Voilà. Donc, on a mis une photo qui illustre la résidence intergénérationnelle, qui figure d'ailleurs sur le permis de construire, qui a été déposé et accordé. Voilà. Donc, écoutez, je vais laisser la parole à M. Dex, ici présent, à ma droite, qui va se présenter, répondre aux questions, etc. Monsieur Dex, je vous laisse la parole.
Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je vais simplement vous rappeler brièvement qui est la société immobilière Picard. Nous sommes basés à Amiens. Donc, la société immobilière Picard est une entreprise sociale pour l'habitat. On est un bailleur social. On a 11 200 logements au total, à 98% dans le département de la Somme. On a à peu près 36% de logements individuels. Quelques chiffres. Cette année, on va livrer 500 logements et on va en produire à peu près 250. La CIP, c'est un résultat à aujourd'hui de 8 millions d'euros sur l'année 2017. Donc en fait, on est un bailleur social qui a été créé par son actionnaire qui est toujours majoritaire, qui est la CCI d'Amiens. Elle a été créée quand la zone industrielle nord, en fait, a été créée. Il fallait loger des salariés. Et c'est pour ça que, pour ceux qui connaissent, il y a une ZUS qui s'appelle Étouvie. Et Étouvie, à l'époque, a été créée justement pour loger les salariés de la zone industrielle nord. Qu'est-ce qui se passe à aujourd'hui? C'est que sur le territoire de la Somme, en fait, la CIP a les capacités de produire à peu près 250 logements par an. Il s'avère que dans le département de la Somme, excepté Amiens Métropole, tout le reste du territoire est en zone dite détendue. C'est-à-dire qu'il y a une offre à aujourd'hui qui existe et qui est assez conséquente, en tout cas, et qui ne mérite pas de produire d'autres logements. Compte tenu de nos moyens financiers, la CIP en fait a décidé, en accord avec l'État et avec certaines collectivités, d'aller s'implanter dans certaines communes limitrophes à son département, c'est-à-dire le département de l'Oise. Il faut savoir que la CIP est aussi un des actionnaires de la SA du Beauvaisis qui se trouve à Beauvais, dont la présidente est Caroline Caillou. Voilà, je voulais juste vous préciser. Donc l'objectif de la CIP, il est très simple, c'est de produire entre 100 et 150 logements dans le département de l'Oise sur les 5 ou 10 prochaines années. L'objectif est de grossir rapidement pour pouvoir ouvrir une agence de proximité et pouvoir faire en fait notre travail de gestion de proximité qui nous caractérise en tout cas dans le département de la Somme. On a actuellement un programme à Pontpoint qui est en train d'être livré d'ici 2 mois. Et puis on a aussi un programme à Lacroix-Saint-Ouen et un programme sur Compiègne. Et bien sûr, ce programme de résidence intergénérationnelle sur lesquels on travaille activement en tout cas avec Monsieur le maire et puis Link City, qui est le promoteur de l'opération depuis maintenant près de 2 ans. Voilà rapidement, Monsieur le maire, sur en tout cas qui nous sommes et pourquoi en fait on vient dans le département. Alors, simplement une précision, c'est que on ne vient pas pour concurrencer qui que ce soit dans le département. Les bailleurs sociaux aujourd'hui qui sont présents font très bien leur métier, il n'y a pas de souci. Simplement, c'est qu'il y a une offre à aujourd'hui qui n'est pas assouvie et l'État demande en tout cas à des sociétés comme les nôtres de venir activement pour justement compenser l'offre qui, à aujourd'hui, n'est en tout cas pas satisfaite.
Peut-être un point sur la société immobilière Picard. Une des caractéristiques qu'on avait notées, c'est l'importance que vous accordez à l'entretien de vos biens.
Alors, on dépense à aujourd'hui plus de 21 millions dans l'entretien de notre parc. Ce qui veut dire que quand on prend des statistiques, on a d'ailleurs donné en fait notre rapport de gestion à Monsieur le maire avec différents éléments. Ce qui caractérise la CIP, c'est sa capacité à pouvoir entretenir son parc. L'acte de construire, c'est un fait, mais on est avant tout des gestionnaires de logements. Et je pense que ce qui caractérise, en tout cas dans le département de la Somme, la SIP, c'est sa capacité justement à pouvoir entretenir ses bâtiments. Et c'est surtout l'image qu'on peut y dégager. Voilà. Il faut savoir qu'on loge les mêmes personnes que dans les offices publics. Les critères, en tout cas, qui sont éligibles dans les offices publics sont les mêmes pour la SIP. Simplement, c'est qu'on accroît notre gestion de proximité de manière assez importante. Voilà. En termes de gestion, pour ceux qui pourraient se poser la question de savoir comment la CIP pourrait gérer, en tout cas, par exemple, cette résidence qui est ici, il faut savoir qu'on a une implantation très, très importante sur Montdidier et Roy, qui, par le réseau autoroutier, sont qu'à une trentaine de minutes de la commune de Verberie. Donc ça pose aucun souci, puisqu'en fait, on a des agents de proximité qui sont présents sur ces communes et qui seront dédiés justement à la gestion des différents sites qui sont en cours de construction sur le territoire. La santé financière de la CIP, je vous l'ai dit, c'est 8 millions d'euros de résultats. On dégage à peu près 10 millions d'euros d'autofinancement. Autofinancement, c'est ce qui nous permet de construire et de réhabiliter. Ce qui veut dire qu'à aujourd'hui, sur le plan local et même sur le plan de la région, on fait partie de ces organismes qui sont en très très bonne santé financière. Alors, elle est en bonne santé financière parce que simplement, on existe depuis les années 45 et on a un certain nombre de bâtiments à aujourd'hui qui sont déjà amortis et qui nous permet en fait de faire rouler. Parce que je vous rappelle que la CIP ne distribue pas de dividendes vis-à-vis de ses actionnaires. Tout l'autofinancement qui est dégagé est réinvesti soit dans la construction, soit dans la maintenance. Non, pas du tout. Alors, c'est assez rare que des dividendes soient versés. De toute façon, ils sont encadrés. Mais ce que aujourd'hui, on est une entreprise sociale pour l'habitat. On est là pour loger des gens qui sont dans le besoin. Et c'est avant tout notre métier numéro un.
Y a-t-il des questions sur cette partie ? Oui. Monsieur
oui,
Fleury.
Je voudrais savoir qui sont les actionnaires de la CIP ?
Alors, la CCI d'Amiens. C'est-à-dire que la CCI a aujourd'hui est actionnaire majoritaire. Le deuxième actionnaire, puisqu'on avait un pacte d'actionnaires avant avec le 1% logement, qui a été dénoncé à aujourd'hui notre deuxième actionnaire, mais qui n'est pas majoritaire puisqu'il n'y a pas de pacte, c'est la Caisse d'épargne.
D'accord. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un programme sur Pontpoint, un programme sur la Croix, qui est en route, et un programme sur Compiègne.
Oui.
Est-ce que ces communes-là se sont portées caution des emprunts ?
Alors, certaines sont en cours. Pour la commune de Pontpoint, non, puisque aujourd'hui, elle a estimé qu'elle n'avait pas la capacité de pouvoir garantir l'emprunt. Donc, à aujourd'hui, elle nous a refusé cette garantie. Voilà. Pour la commune de La Croix-Saint-Ouen, on a rencontré Monsieur le maire, qui va lui faire une répartition entre le conseil départemental et éventuellement l'ARC. Voilà. Et pour la commune de Compiègne, c'est bien sûr la commune de Compiègne qui, à un moment donné, prendra la garantie.
Pour l'instant, c'est pas fait.
Non.
Alors, sur l'actionnariat, effectivement, vous avez un actionnariat qui est particulièrement solide, avec la Caisse d'épargne.
Oui, c'est la Caisse d'épargne bon, qui a aujourd'hui... Alors, c'est pour moitié, Caisse d'épargne de Picardie, encore, on va dire Hauts-de-France, puisque aujourd'hui, ça change relativement rapidement. On ne fait pas encore partie du groupe Habitat en Région. Habitat en Région, c'est une sorte de holding qui détient toutes les participations en fait, dans les sociétés d'HLM de France. Voilà. Ce groupe pèse à peu près 250 000 logements en France. Aujourd'hui, pour l'instant, la CIP n'en fait pas partie. Elle reste avec son actionnaire principal qui est la CCI, donc qui effectivement est en cours de rapprochement puisque ça devrait passer sur l'île. mais ça ne change strictement rien vis-à-vis de ses filiales.
J'ai noté une chose, c'est le montant des fonds propres. Par exemple, 164 millions d'euros quand même.
Oui, c'est ça, en sachant qu'on a une réserve en fonds propres au niveau de la prévoyance qui est d'à peu près 37 millions d'euros. Alors ce sont des chiffres qui font un petit peu, qui sont assez conséquents, mais il faut savoir que quand on a produit il y a deux ans 650 logements, on avait des investissements qui étaient aux alentours de 150 millions d'euros par an. Voilà.
Vous parliez tout à l'heure d'agence de proximité. Aujourd'hui, on a bien compris que elle n'est pas aussi proche que ça, mais combien il faut de logements pour créer justement une agence de proximité ? Est-ce qu'il y a des normes ?
Non, il n'y a pas de seuil précis. Je pense que quand les gestionnaires de proximité seront en mesure de nous rapporter le fait de ne pas pouvoir faire correctement leur gestion, c'est là où on mettra une agence de proximité. Donc je pense que ça serait, à aujourd'hui, ça serait une erreur de vous donner un nombre, parce qu'à partir du moment où, en fait, on a une qualité dans les attributions de logement qu'on fera de toute façon conjointement, c'est là dont on verra si on a besoin d'être plus ou moins présent. Quoi qu'il en soit, nos gestionnaires de proximité passent systématiquement toutes les semaines sur nos résidences, hein, puisque ça fait partie de nos contrôles qualité qui sont obligatoires, en tout cas chez nous.
Il y avait un point, alors le rapport date un peu, parce que c'était Milos, la commission Milos, qui légalement doit vous contrôler de temps en temps, qui avait signalé, on va dire en 2011, donc ça fait quand même quelques années, votre zone d'étouffée qui était, un peu fatiguée.
Oui.
Où est-ce que vous avez refait des travaux ? J'imagine que depuis vous en avez, est-ce qu'il y en a encore à faire ?
Oui, alors vous le verrez, mais que prochainement, parce qu'il ne sortira que l'année prochaine. Donc on a la Milos qui est maintenant devenue l'Encols, hein, qui sont un petit peu les organes qui contrôlent les sociétés d'HLM, sont passés l'année dernière et cette année, puisqu'on a eu un contrôle qui s'est porté sur 8 mois, hein, qui porte sur l'ensemble des activités de la société, donc qui a rendu son rapport et qui est plus que favorable. Mais vous ne pourrez le lire que l'année prochaine. Il faut savoir qu'entre 2011 et 2016, on a injecté à peu près 60 millions d'euros dans la réhabilitation d'à peu près 1000 logements sur Étouvie. En sachant que Étouvie, c'est une ZUS, c'est un quartier sensible. Sur 1,5 km, on a à peu près 10 000 logements. Donc vous voyez que c'est extrêmement dense. Quand vous passez sur l'autoroute A16, sur le côté d'Amiens, vous voyez des grandes tours. Tout ça, ça appartient à la CIP. C'est pas les quartiers nord comme on peut le voir sur certains articles de presse. On n'est pas du tout dans la même dimension. On est sur un quartier plutôt historique qui a vécu effectivement et qui demande en fait certains besoins en termes de travaux. Et puis on rentre dans un terme un petit peu barbare que vous entendez certainement sur Compiègne, c'est l'ANRU. C'est l'agence de renouvellement urbain préconise en tout cas de démolir un certain nombre de logements et d'en réhabiliter un certain nombre. Dont la CIP on doit voir les élus amiennois la semaine prochaine pour se mettre d'accord sur le futur programme. Voilà.
Le programme qui est prévu à Compiègne aurait combien de logements ?
Alors, on serait sur une résidence étudiante qui demande encore à être déterminée à aujourd'hui.
D'accord.
En sachant que Mme Gorgue, qui reste en tout cas pour la CIP, un atout majeur, parce que c'est vrai qu'elle nous aide vraiment, en tout cas dans l'établissement, de pouvoir se structurer, en tout cas dans la construction de certaines zones dans le Compiénois. On souhaiterait s'implanter, mais c'est ce que je vous ai dit au préalable, on n'est pas là pour dire les autres font pas bien et nous on fait mieux que tout le monde. Non, simplement c'est qu'on estime qu'on a notre place ici et donc on vient... On vient très doucement, mais on vient surtout très sûrement.
C'est un moyen aussi pour les autres de se tenir.
Oui, tout à fait.
En éveil.
Est-ce qu'il y a encore des questions sur la CIP elle-même ? On peut peut-être passer au projet, alors.
Alors, le projet... simplement la CIP, hein, pour que... tout le monde soit bien au courant, donc la CIP, nous ne sommes pas promoteurs, hein, c'est-à-dire que c'est Link City qui est le promoteur immobilier qui réalise pour le compte de la SIP l'opération des 48 logements, hein, qui sera une résidence intergénérationnelle avec trois financements distincts. On passe du très social au moins social, entre guillemets, puisqu'on aura aussi du PLS, hein, du prêt locatif social, avec des loyers qui sont en tout cas des plus élevés dans la marge du logement social. Que vous dire, ça sera une résidence intergénérationnelle auquel on devra mixer en tout cas tout un public, hein, pour que ça puisse vivre correctement. Donc des personnes plutôt dites âgées, je fais attention avec le terme âgé parce que ça ne veut pas dire grand chose. On n'est pas dans une résidence médicalisée, on est plutôt sur des gens qui auraient parfois un peu de perte de mobilité sans être complètement handicapés, et puis avec certaines familles ou certains jeunes pour que cette résidence puisse être justement intergénérationnelle.
Donc il s'agit de 48 logements, T2 et T3.
Oui, c'est ça.
Hein, qui seraient construits. Un point sur la CIP que j'avais noté, j'ai oublié de le donner tout à l'heure, le recouvrement locatif. Donc en pourcentage, j'ai les chiffres de 2016, je ne sais pas si vous avez ceux de 2017, vous étiez à 99,1%.
Voilà, on est toujours dans ce même taux. Et on a un taux de vacances, donc un taux de vacances, c'est-à-dire un taux de logement non occupé, qui est aux alentours de 2,3%. Alors, il se caractérise par des logements qui sont vacants dus à des problèmes d'amiante. Hein, puisque vous savez qu'à aujourd'hui, malheureusement, quand on reloue, il s'avère qu'on trouve de l'amiante dans des bandes de placo. Hein, c'est-à-dire qu'il y a du papier peint et puis vous avez des bandes de placo entre deux plaques de plâtre qui, à l'époque, ont été faites avec de la fibre d'amiante. Et donc, nous ne pouvons pas remettre du papier peint sur ce genre de composants, ce qui entraîne, en fait, une vacance de logement. Voilà.
Sur le projet lui-même, bon, on en a déjà largement parlé, hein, il serait donc situé derrière le centre de restauration scolaire, les pompiers, enfin, sur cette zone-là, hein, sur une parcelle qui donc va être découpée en deux, puisqu'une partie passera en classement zone N et sera une zone humide. Enfin, on en a déjà parlé lors d'un dernier conseil municipal, avec effectivement cette zone humide qui fera l'objet de j'allais dire compensation, non, c'est pas le bon terme, cette zone humide qui fera l'objet d'une d'un entretien, c'est plus que ça, c'est d'une remise en état, on va dire.
C'est ça.
Je cherche le bon terme, je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai pris celui de remise en état. Donc derrière la résidence intergénérationnelle, très clairement, aujourd'hui, il n'y aura pas de construction au sud de la résidence intergénérationnelle. Hein, donc, je vous donne la parole, depuis la résidence jusqu'à la rue d'Aucoup. Voilà.
Oui, nous avions déjà fait une remarque sur le projet, puisqu'il n'y a que 53 places de parking et 448 logements. Or, bon, les sociétés d'HLM, je sais que n'ont pas besoin de mettre deux places de parking par logement, mais où vont, parce qu'en général, il y a quand même deux voitures par logement. Et dans le privé, on oblige tout constructeur à avoir deux places de parking par logement. Or là, il n'y a qu'une place de parking par logement où se gareront les autres voitures.
C'est une réponse, je pense, une réponse.
Vous pouvez, oui, je pourrais donner après un échantillon de ce qu'on fait.
Bon, alors, bon, vous avez, c'est la loi. Effectivement, l'exigence du PLU d'avoir deux places de stationnement par logement ne vaut pas pour les bailleurs sociaux. Ce qui est exigé, c'est une place par logement. Vous noterez qu'il y a déjà plus d'une place par logement. Il n'y en a plus. Ensuite, c'est une résidence intergénérationnelle. Et dans les résidences intergénérationnelles, le nombre de véhicules n'est pas du tout le même que dans une résidence où il n'y a que des jeunes actifs. Et ça, on a pu tout à fait le contrôler. On a été notamment à Choisy-au-Bac, où il y a une résidence qui a d'ailleurs été construite aussi par Link City, qui au passage, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cette société, est en fait une filiale opérationnelle de Bouygues. Hein. Mais voilà pour ce qu'on peut dire sur les véhicules.
Et d'autant qu'il y a 70% de logements qui seront justement pour des personnes...
Alors, le pourcentage reste à définir, mais c'est vrai qu'on était parti vers un montant quand même... Enfin, un montant. Un pourcentage important de personnes âgées, parce qu'on a un vrai besoin pour ces personnes-là qui sont effectivement, comme l'a dit M. Dex tout à l'heure, en perte de mobilité. Et là, tel qu'est conçue la résidence, avec ascenseur, avec tout ce qui va bien au niveau accessibilité, il est clair que pour eux, ça va faciliter les choses.
Ce n'est pas un foyer résident.
C'est
non.
Non.
70% de personnes âgées, moi je veux bien, mais bon, autrement ils vont dire
le pourcentage reste à fixer, mais il y aura de toute façon un pourcentage important.
Vous voulez apporter des places libres dans l'IRPA de l'Oise, hein. Vous savez comme moi que il y a beaucoup de logements vacants dans l'IRPA. Alors, moi, les personnes handicapées n'iront pas, ils vont soit en retraite, soit dans les RPA, où il y a, ben, parce que là, ce n'est pas un RPA, il n'y a pas de personnel.
C'est pas la même population. C'est très clair, c'est pas la même population. Et pour.
C'est une population totalement autonome, mais et... qui n'ont pas besoin de surveillance aucune. Non
ben voilà, oui. Tout à fait.
Il y a une dame, par exemple, qui demande un logement, et actuellement, avec le bailleur social actuel qu'on a, c'était comme ça à l'époque, il n'y a pas d'ascenseur. C'est une dame qui ne nécessite pas, effectivement, un suivi médical de proximité, elle a une fibromyalgie, et c'est une pathologie qui l'handicape pour monter les escaliers. Avec une résidence intergénérationnelle, je pense que c'est vraiment le but qui lui conviendrait pour se sentir bien.
On sent quand même qu'on a quelques demandes.
Mais
les loyers sont pas les mêmes en RPA.
Non, 70% du nombre de logements.
Ça m'étonne un peu.
Ben non, ça n'a rien d'étonnant. En tout cas, j'ai dit que le pourcentage restait à fixer, mais il y aura effectivement un pourcentage important. Ça peut être 50-50, ça peut être 70-30. En tout cas, il y aura un pourcentage important. Et comme Annie Carpentier vient de le dire, il y a une demande qui est importante. On est interpellé. Alors, il y a les problèmes de personnes à mobilité réduite. Il y a aussi des gens qui ont des logements qui sont assez grands et qui, vu leur âge avançant, aimerait bien trouver des logements plus petits. Ça fait partie aussi de la demande. Et par là, ça va assurer une certaine rotation dans le parc de Verberie.
On a quand même la proximité de tous les remparts. Il y a de la maternelle.
Alors, qui est vide. Et puis sur les... Oui, vas-y, Laurence, t'en prie.
Il y a quand même la proximité du parking de la maternelle, notamment enfin, le parking des remparts, qui n'est pas très très loin. Donc, pour les personnes qui ont d'autres véhicules, ils peuvent...
Vous voulez compléter, Monsieur Dex, sur les places de stationnement ?
Oui, je voulais simplement moi vous donner un contre-exemple. Hein. On a fait une résidence où justement on a mis deux places de parking par logement. Vous savez que certaines places de stationnement en fait ont un loyer, hein, puisque de toute façon on ne peut pas les assimiler au niveau du logement, hein, puisque le loyer d'une place de parking doit être à part un logement, on ne peut pas les assimiler, hein, fatalement. Y a à peu près une place et demie qui n'a pas été louée, si je faisais en référence au niveau des logements. C'est-à-dire qu'on a fait deux places de parking, le parking était vide, et les gens, pour autant, allaient aussi se garer sur d'autres parties. Et contrairement à ce qu'on peut croire aussi, on a fabriqué plusieurs résidences. Et là, je peux vous donner un exemple. Alors, ce n'est pas sur Verberie, mais c'est sur Amiens, en plein centre, où les gens ont manifesté leur mécontentement devant une réunion publique sur le fait de ne pas avoir mis de place de stationnement du tout dans une résidence. 5 pour une résidence de 70 logements. On n'a aucun problème. La lecture de la voiture à aujourd'hui, elle est surtout une problématique en amont du projet, mais certainement pas en aval.
Oui, non, mais ça c'est facile. Parce que vous avez quand même, sur 48 logements, vous avez quand même des puisqu'ils sont âgés, quand même des familles qui viennent. Ils ne viennent pas à pied, ils viennent se garer. Donc il faut des places de parking pour les gens qui viennent voir ces personnes.
Je vous rejoins tout à fait. Quand on voit la maison de retraite, je ne peux pas m'empêcher de me faire la remarque, parce que la maison de retraite, je suis désolée, mais les places de parking pour les familles.
Mais il n'y en a pas.
Il n'y en a pas, non. Ce sera toujours mieux que la maison de retraite.
Ça se passe bien.
Il y avait combien de places de parking de prévu?
Ça se passe bien, la maison de retraite.
L'immeuble sur lequel
là, il y avait deux places.
D'accord.
Et j'ajoute que la RPA, d'ailleurs, en termes de nombre, la RPA résidoise, en termes de nombre de places de stationnement, je ne sais pas s'il y a même une place de stationnement par logement. Non, en tout cas, ça ne doit pas excéder ça.
Il y en a moins. Il y en a moins et en plus le parking est très souvent vide.
Bien souvent, les gens de la maison de retraite vont sur la RPA.
Ah oui, enfin ça c'est un autre problème.
Oui,
c'est...
Oui, voilà. Mais déjà. Alors,
hein, mais la RPA, il n'y a pas une place de parking par logement. Donc déjà là, on est à plus d'une place de parking par logement. Donc on va tout à fait dans le bon sens. Oui, monsieur l'ami.
Vous avez un autre immeuble, le même principe, hein, puisque vous avez une location sur les places de stationnement. Donc le parking intérieur est finalement très peu visité et les extérieurs sont pollués par le stationnement résidentiel de ces immeubles. Donc il y a aussi effectivement des contre-exemples. Et le problème pour nous, c'est vraiment la notion du contre-exemple pour les résidents qui sont autour. Est-ce qu'on ne va pas venir encore aggraver la situation pour certains? Il suffit de regarder un peu le parking qui est situé juste en face. Le parking qui est situé juste en face, qui est très clair, blindé. Ça mènera une tension sur le stationnement résidentiel qui sera évidente.
De combien serait le... Il y a le parking qui est en face qui est blindé et il y a le parking sur la place qui est totalement vide. Parce que les gens ne veulent pas faire 50 mètres à pied.
Et encore 50 mètres.
Après, c'est leur problème.
Alors,
c'est leur problème, mais en même temps,
ouais, mais là,
c'est ce qu'on veut. Si c'est leur problème, c'est aussi l'autre.
Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Enfin, on a des places de parking qui sont libres. Les gens peuvent faire 50 mètres à pied pour aller se garer quand même. Si le parking est plein à côté.
Ah. Alors, on parle de places de stationnement payantes. D'abord, ce n'est pas une obligation, d'après ce que je comprends. Hein. Je me suis tourné vers M. Dext. Qui me dit ensuite, je vous laisse continuer parce que je ne vais pas faire...
Oui, simplement, c'est qu'on propose une résidence qui est bien sûr sécurisée, hein, avec un contrôle d'accès et donc des bips. Et on parle d'une place de stationnement qui est aux alentours de 15 euros par mois.
Mais on est d'accord aussi que vous parliez de logement social, et on sait aussi que pour certains, 15 euros, c'est 15 euros.
Bien sûr.
Voilà. Donc, nous, notre crainte, c'est que pour ces montants-là, comme je le citais, il y a d'autres cas ailleurs où les places ne sont pas forcément plus chères non plus, mais pour autant, les gens ont continué à stationner à l'extérieur alors que les parkings ont été réalisés. Et donc, c'est finalement les espaces extérieurs et qui sont normalement joints, qui sont les espaces à partager avec d'autres riverains, qui sont finalement pollués par ce stationnement.
Vous noterez que de l'autre côté, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le stationnement, là, à l'intérieur de la résidence, est sécurisé. La résidence est close, avec contrôle d'accès, et il y a donc un stationnement sécurisé. Ça aussi, c'est une recherche importante des personnes.
Oui, dans l'exemple ici, c'est exactement la même chose pour autant.
Ah, oui.
Voilà, c'est juste qu'on a des personnes qui sont dans des logements sociaux, qui connaissent des difficultés, et que pour elles, 15 euros, c'est 15 euros. Donc on en aura, évidemment.
Bon, on a bien évoqué le problème des places de stationnement. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Non.
Non, le reste avait déjà été débattu.
Tout à fait.
Sur l'emplacement par rapport aux immeubles de résidence qui étaient derrière, ils ont déjà été débattus au moment, puisque le promoteur à l'époque s'était engagé à faire des résidences et non pas des habitats loyers modérés. Et que les immeubles vont se trouver entre deux...
Alors, le promoteur à l'époque s'était engagé, effectivement, il y a d'ailleurs eu un permis...
Auprès de ses acheteurs.
Il y a Ça, si vous savez le nombre d'acheteurs et ce qui se dit, etc., et les promesses de certains agents immobiliers, parfois, c'est assez étonnant. Mais derrière ça...
C'est comme un municipal.
Oui. Derrière ça, il y avait effectivement 3 immeubles sur le permis de construire qui étaient accordés, qui occupaient la totalité de la parcelle avec 108 logements. Là, aujourd'hui, il n'y aura que 48 logements sur toute la parcelle et l'affaire est close. Elle est close par le respect de ce que nous demande l'État. Donc on a quand même un espace qui est beaucoup plus aéré, et y compris pour les immeubles qui sont à côté, beaucoup plus aéré que s'il y avait eu effectivement 3 immeubles. En fait, c'est les mêmes que ceux qui avaient, qui sont construits aujourd'hui, qui étaient bien sûr tournés différemment. Mais il y avait effectivement ces 3 immeubles qui devaient être installés. C'est effectivement le promoteur qui a renoncé à son permis de construire.
Donc au départ, on est bien d'accord qu'il y a eu juste...
Comment ?
Au départ, ce qui nous était présenté lors de la première présentation publique, on nous exposait bien plusieurs tranches.
Non, je reprends ce que je viens de dire. Le projet dont je parle, c'est celui qui a été accordé dans les années 2006, qui était conduit par le promoteur qui était M. De Villers.
Qui était une résidence, qui n'était pas des habitats loyers modérés.
Donc le projet conduit par M. De Villers, qui comporte ces 3 bâtiments sur l'ensemble de la parcelle, il n'a jamais été question de cela depuis 2014. Jamais. Voilà.
En son temps, nous avions refusé à la SAHLM de l'Oise de construire sur les terrains de M. De Villers. Parce que, par respect pour les habitants des 3 immeubles privés, c'est ce qui leur avait été présenté. Donc, ils avaient acheté, ils avaient payé d'ailleurs, comme vous avez pris, 2 800 € le mètre carré, et j'estime qu'on devait prendre tout ça en considération.
Aujourd'hui.
Bon, aujourd'hui, ça n'est plus le sujet.
Ah bon? Bien.
C'est le sujet, puisque les permis ont été faits, nous avons voté contre en tout temps. Aujourd'hui, on est pas.
Bien. Donc, je propose de passer à la garantie d'emprunt.
Il n'y avait pas une présentation ? Excusez-moi, je n'ai pas.
De quoi ?
En dehors de ça, moi, je pensais qu'il y avait une présentation quand même succincte.
De quoi ?
Du projet d'organisation, parce que j'ai fait une remarque sur. Le président du conseil municipal.
Ce qu'il a déjà été présenté. Hein.
Oui, bon, d'accord. Mais voilà. Je sais qu'on nous en parlait tout de même ce soir.
Oui.
On parlait d'un pacte générationnel, mais j'ai fait la remarque du fait qu'il n'y avait pas d'espace, finalement, d'espace commun pour entre guillemets, une zone d'échange. Et vous m'aviez répondu que vous alliez voir ça. Donc, je pensais que avoir un élément complémentaire.
Alors. Ok, je n'ai pas souvenir de cette affaire-là, mais si vous le dites, c'est que ça doit être exact. Il n'y a pas aujourd'hui d'espace commun de prévu.
Non, on n'est pas sur une... Vous en parliez tout à l'heure, on n'est pas sur une RPA avec des zones communes qui sont facturées, en fait, aux différents locataires.
Parce que la RPA, pour en parler, il faut connaître ses loyers et ses charges, qui sont quand même... très élevé.
Ce sera à comparer.
Ben, la comparaison va être vite faite. Ça va être vite, vite fait. Voilà pour ça.
Moi, j'ai quand même un tout petit peu de mal avec la notion d'un plan générationnel s'il n'y a pas de lieu d'échange.
Ben, écoutez, les gens peuvent se recevoir, se voient à l'extérieur, échangent, se reçoivent les uns chez les autres.
C'est
un intergénérationnel, puisqu'il y aura une partie des logements qui seront accordés effectivement à des personnes qui sont plutôt sur le troisième âge.
C'est comme ça choisi au bac.
Et c'est comme ça choisi au bac.
C'est comme ça choisi au bac.
Et puis derrière, comme il a été dit là, je reprends les paroles de M. Dex, il ne faut pas oublier que tous les espaces communs Après, sont répartis forcément entre tous les locataires, en termes de loyer.
Et qui dit salle commune, dit encadrement, parce que vous pouvez mettre une salle commune au sein d'un établissement, il faut malheureusement l'animer, et l'animation, il faut la rémunérer.
Je parlais pas de salle commune, hein.
Non, mais c'est parce qu'en fait, dans l'Oise, on a beaucoup de RPA qui existent, aujourd'hui, où il y a beaucoup de logements vacants, et il faut voir le montant de la quittance globale. Je ne parle pas que du loyer, je parle de la quittance.
Le produit, il est différent.
C'est extrêmement important. En tout cas, on n'était pas parti sur ce produit-là, on était plutôt parti sur une résidence intergénérationnelle où en fait on mixte les populations sans forcément avoir des salles communes pour avoir des points de rencontre.
Je ne parlais pas de salle en l'occurrence, je parlais vraiment plutôt de l'esprit d'un espace extérieur où plutôt que d'avoir les gens qui rentrent directement chez eux et qui ferment la porte, il puisse y avoir à un moment donné une rencontre.
D'accord.
Merci de mettre carré vous.
Bien, on peut avancer. Donc, je vous propose de passer sur ce qui est garanti d'emprunt.
Oui, donc la CIP, vous savez que la CIP utilise en tout cas des emprunts qui émanent de la Caisse des dépôts et des consignations. La Caisse des dépôts et des consignations, en fait, lève des emprunts par la collecte du livret A. C'est-à-dire que toute la collecte qui est faite en France au niveau du livret A sert aussi à alimenter en emprunt les bailleurs sociaux. Et à aujourd'hui, la Caisse des dépôts et des consignations nous demande obligatoirement d'avoir une garantie des collectivités pour obtenir les emprunts. Donc, une obtention du conseil départemental, une obtention de la commune, une obtention de la com de com. Voilà, en tout cas, c'est une obligation. Sans ça, nous ne pouvons pas, en tout cas, avoir les emprunts. Et c'est une opération, en tout cas, si on n'avait jamais donné les chiffres, qui coûte à peu près 7 millions d'euros. Hein, il faut savoir que la cible dans cette opération met 1,5 million d'euros de fonds propres. Et le reste étant levé par des emprunts. Le niveau des subventions étant relativement très faible, puisqu'en fait, à aujourd'hui, elle n'est que de 110 000 euros. Donc c'est pour ça qu'à aujourd'hui, en fait, on s'est tourné d'abord, dans un premier temps, bien évidemment, vers Monsieur le maire pour obtenir 100% de la garantie. Ensuite, on s'est tourné aussi, puisque c'est ce qu'on fait traditionnellement, d'aller voir l'agglomération. Hein, là, ici, c'était l'Arc, mais au début de nos conversations, vous n'étiez pas encore sous l'Arc. Donc c'est pour ça qu'on vous avait sollicité à hauteur de 100% de cette garantie d'emprunt. Et puis parfois, le conseil départemental, en fait, garantit aussi, et c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de bailleurs dans le département de l'Oise, a garanti parfois 100% de l'opération, chose à aujourd'hui, suivant une nouvelle politique qui est en partie réalisée, mais en fonction des projets. Donc, dans ce cadre-là, l'ARC a donc accepté de garantir 50% de nos emprunts en ce qui concerne cette opération. Et donc, on s'est tourné vers Monsieur le maire pour que les autres 50% soient garantis par votre collectivité.
Jusqu'ici, lorsque les sociétés d'HLM étaient du département, le département garantissait 100% de l'emprunt.
Tout à fait.
À condition que ce soit une société HLM du département.
Non,
c'est bien.
Non. Bah, j'ai rencontré le premier vice-président aux finances du département il y a très peu de temps, sujet. Je lui ai posé la question, parce que je voulais justement lui expliquer qu'on avait un conseil municipal ce soir, et qu'il fallait que j'explique pourquoi le département avait refusé la caution. Et en fait, ce n'est écrit nulle part. C'est une volonté orale de certaines personnes au département de ne prendre que des organismes du département. En aucun cas, la loi là-dessus est très claire, en aucun cas, ils ne peuvent refuser par écrit quelque chose hors département. Et ça, il me l'a dit de vive voix. Donc, le résultat est peut-être le même. Mais non, mais je veux dire que.
Bien. Dans ces affaires-là, moi, j'ai rappelé un ou deux points. Tout d'abord.
Pardon ? En fait, tu peux en parler maintenant.
Hein.
On évoque
après, j'aurai un ou deux points. a évoqué.
Il faut quand même savoir qu'initialement, nous avions eu un accord verbal du président de la communauté de communes de l'Arc pour nous financer à 100%. Lors de la dernière commission finance, je ne sais pourquoi d'ailleurs, cette caution a été ramenée à 50%. Il y a eu des interférences quelque part, je ne sais pas où. Toujours est-il qu'on se retrouve à notre charge à 50%. Je suis revenu à la charge au département, donc justement j'ai rencontré M. De Valroger pour lui expliquer qu'il était totalement anormal que le département ne prenne pas en charge une partie de ce cautionnement. Ce dernier m'a donc expliqué ce que je vous ai dit tout à l'heure et a revu sa position. Et le département pourrait, et comme quoi c'est tout à fait possible, intervenir à hauteur de 25% sur le cautionnement. Toutefois, cette opération n'a été traitée que la semaine dernière, donc le département, faut que ça se mette en route, et nous ne pourrons avoir la réponse sur ce dossier que dans un mois et demi. Donc ça passera au département au mois d'octobre. Donc il y a de très fortes chances que le département cautionne ce dossier à hauteur de 25%. Dans une mesure de rapidité et de besoin pour la CIP et pour la mise en place des emprunts, nous allons donc dans un premier temps demander le cautionnement à 50% de ce dossier. Je suis intervenu et j'ai appelé la CDC pour m'assurer qu'il y avait une totale possibilité de faire des avenants par la suite sur les autres 25%, et j'ai une réponse positive de la CDC sur ce sujet.
Voilà. Et de la CIP d'ailleurs aussi.
Voilà le raisonnement tel qu'il est en ce qui concerne la garantie d'emprunt. Donc, ce qui fait que sur une garantie d'emprunt dans un premier temps qui devait être de 2 694 000 euros, on reviendrait au mois d'octobre à une garantie d'emprunt d'un 1 347 339 euros. Voilà. Bah, Monsieur De Valroger m'a garanti qu'il interviendrait auprès du département pour qu'on l'ait. Il a appelé devant moi son directeur financier afin de régler les affaires.
Mais c'est pas vice-président.
Bien sûr, je le comprends bien, mais je tiens à vous en informer quand même.
Et puis on voit, comme il a été dit, que maintenant il va y avoir un projet sur la Croix-Saint-Ouen. Ce serait combien de logements sur la Croix-Saint-Ouen ?
14.
14 logements, et que là il y aurait pareil une intervention a priori du conseil départemental, si j'ai bien compris. Donc ce qui vaut pour les uns vaut pour les autres.
Évident qu'à l'Arc, on aura à la commission finance le même regard sur la caution qu'ils l'ont eu pour Verberie.
Et puis
je peux vous le garantir.
La position est établie, là.
La position d'Arc, elle est... Parce que, techniquement parlant, ça dégrade...
Non, c'est pas lié à ça.
Non, du tout. Et ça ne rentre pas dans le schéma d'endettement de la commune.
Non, en direct.
Pas en direct. Mais ce que je veux dire, c'est que...
Non.
Non, pas du tout.
Laurent, tu peux parler là-dessus ?
Oui, enfin, vaguement, parce que je travaille à la Caisse d'épargne, donc je n'ai pas de lien avec le projet, je tiens à préciser. Mais en effet, même si on regarde, c'est-à-dire que si on a de nouveau des projets pour la commune, évidemment on regarde si on s'est porté garant et à quelle hauteur. En aucun cas c'est un critère principal, puisque ce qui est un critère principal c'est l'autofinancement, les comptes, etc. Et là je vais me tourner vers Mme Javelot, puisque je crois qu'il y a un pourcentage qu'il faut regarder. Et Mme Javelot, après l'analyse des éléments, on est vraiment, vraiment très loin de la norme. Donc, il n'y a pas de sujet sur le fait de se porter garant sur cet emprunt-là. Je crois qu'on passe de 14 à...
De 12.
On est aujourd'hui à 12% de cautionnement de ce...
Je préférerais que ce soit Mme Javelot qui donne tous les éléments, parce que comme ça, ce sera
12%, 14%. Et puis, je vais me permettre de compléter, c'est-à-dire que si vraiment... on en arrive à payer, c'est-à-dire qu'on s'est porté garant un jour, si vrai, c'est que le château de cartes s'est écroulé, mais d'une façon extraordinaire, puisque le CIP, monsieur le rappelait tout à l'heure, est quand même propriétaire de certains biens. Donc avant d'aller chercher la caution, on va quand même d'abord peut-être vendre les bâtiments qui existent, dans lesquels il est propriétaire. Il y a des plans de restructuration qui sont faits notamment par l'Encols, je crois, qui vous obligerait dans ce cas-là à restructurer les dettes. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment le tout dernier recours. Et donc, d'ailleurs, je crois, aucun cas aujourd'hui.
Oui, je vais compléter effectivement. En partant d'une hypothèse que la CIP ne serait pas en capacité de pouvoir honorer ses emprunts, il y a ce qu'on appelle la CG2LS, la Caisse de garantie du logement social. Quand un organisme HLM est en difficulté, hein, par exemple, on a eu un exemple, c'est la SA HLM de l'Oise, par exemple, qui a été en difficulté dans le département, hein, avec des conditions financières à aujourd'hui, en tout cas assez périlleuses, c'est la Caisse de garantie qui prend le relais. Et si par mesure, par rapport aux exigences de la caisse, la CG2LS, la CIP ne serait pas en mesure de relever la tête, le patrimoine serait recédé à un autre bailleur. Le logement social ne peut pas partir en déshérence. Ça partira vers un autre bailleur, fatalement. Et ça n'est jamais arrivé. Imaginez-vous, je vais prendre une ville puisque je la connais, c'est la ville d'Amiens. Il y a à peu près 23 000 logements sociaux dans la commune. Tous ont été garantis par la ville d'Amiens. Si on ne devait pas rembourser les emprunts, on est dans un scénario qui est impossible. C'est un scénario envisageable pour du privé, mais pas pour du logement social.
D'ailleurs, dans les fiches que l'on trouve, qui sont des fiches de l'État, pour tout ce qui est garantie d'emprunt des collectivités, on vous explique très clairement que les garanties d'emprunt les plus risquées sont celles qui sont faites au monde associatif. Ensuite, la deuxième catégorie de garantie d'emprunt, ce sont les garanties d'emprunt à des propriétaires privés et dans l'ordre décroissant des risques. Hein. Et le dernier, c'est effectivement la garantie d'emprunt au bailleur social. Juste un mot, quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, le département, effectivement, d'un seul coup, en regardant, en examinant, ça leur est remonté aux yeux qu'ils avaient engagé 1,5 milliard de garantie d'emprunt. Il faut savoir que ça ne touche pas que les bailleurs sociaux, la réflexion du département. Aujourd'hui, la maison de retraite d'Antilly, pour ne prendre qu'un exemple, a une rénovation particulièrement importante à faire. Et pour ça, la directrice avait fait appel à la CDC, comme la CIP va le faire. Elle s'est tournée vers le département pour la garantie d'emprunt. Le département a refusé. Voilà. Pourtant, là, c'est une maison de retraite de l'Oise avec... c'est un EHPAD. Donc, elle est en train de trouver d'autres sources, etc. Mais c'est pour vous dire que... c'est plus large que ça. Madame Javelot, je vous laisse la parole.
Oui, donc, au niveau du budget, il y a un ratio qui est calculé par rapport aux garanties d'emprunt que la commune peut accorder. Aujourd'hui, nous, le ratio est à 12,45, puisqu'on a la garantie d'emprunt pour l'aménagement de la mairie. Si on prenait en compte 50% de la garantie, on passerait à 14,62. Donc ça, j'ai fait le calcul, mais les garanties d'emprunt aux bailleurs sociaux n'ont pas à être comptabilisées dans ce ratio.
On a regardé le ratio par... effectivement, les ratios sont exclus pour les bailleurs sociaux. Mais on a quand même voulu regarder ce ratio. Et vous voyez qu'on est aujourd'hui à
12,45.
Et en cas de défaillance complète, c'est ça.
Et
hein,
le ratio maximum à ne pas dépasser, c'est 50%.
50%. Et là, on montrait à 14,...
À 14,62, si on intégrait cette garantie qui n'est pas...
50%. Hein, donc, 50%. Et en termes d'annuité, moi, je crois que c'est 80 000.
En termes d'annuité, c'est 81 436 euros.
Pour un événement qu'on n'a jamais vu se produire.
Et c'est pour 50% de garantie.
Pour 50%,
oui. Voilà. Je pense que... Est-ce que vous avez encore des éléments à donner sur ce point-là, M. Dex?
Non, écoutez, je pense que si aujourd'hui le conseil municipal, en tout cas, vote favorablement, la CIP et Link City seraient en capacité de démarrer l'opération dès le 25 septembre.
Très bien. Avez-vous encore des questions à poser ? Pas de questions ? Il me reste à vous remercier, Monsieur Dex.
Merci, Monsieur.
Merci. Merci beaucoup de votre déplacement, du temps que vous nous avez consacré. Merci beaucoup. Bien, je vous propose de faire une petite marche arrière et puis on va voir ces délibérations-là en première. Il faut quand même qu'on ouvre officiellement la séance du Conseil municipal et qu'on procède à l'appel des conseillers. Donc, Enzi Jean, absent. Il était encore en train de faire des soins, là. Michel Arnoux, présent. Arnaud Odile.
Présente.
Barbier Maria Rosaria.
Présente.
Barouin Dolores.
Présente.
Biaise Michel. Pouvoir à Lisiane Grosbon. Absent, pardon. Baumler Laurent.
Présent.
Brouillard René.
Présent.
Carpentier Annie.
Présent.
Clos Marie.
Présent.
Coulet Dominique. Absente, pouvoir à Patrick Floury. Cournille Jean-Jacques.
Présent.
Dumont Laurence.
Présente.
Fagot Edwige. Absente. Floury Patrick.
Présent.
Fourdrin Stéphanie. Absente. Vacances. Galzinski Nicolas.
Présent.
Grosbon Lisiane.
Présent.
Lamy Christophe.
Oui.
Le Mercier Jean-Claude, absent. Merlin Marie-France.
Présent.
Panier Francis.
Présent.
Rabé Philippe. Absent, pouvoir à Dolores Barrois. Raguido Cécile. Absente, pouvoir à René Brouillard. Raoui Ferrugia. Absent, pouvoir à Patrick Stephen. Sauvage Patrick, absent. Nous sommes donc un. Et Patrick Stephen, mes excuses, présent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 présents. Le quorum est atteint. La séance est donc valide. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5 pouvoirs que j'ai énumérés tout à l'heure. Il y a donc au total 22 votants. Ok. Ok, secrétaire de séance. Laurent Baumler se propose comme secrétaire de séance. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Approuvé à l'unanimité. Lecture de l'ordre du jour. Alors. Je le retrouve. Donc, on a déjà fait l'élection du secrétaire de séance. Ensuite, on aura l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal. Les décisions du maire 4 et 5. Résidence intergénérationnelle. Donc, il y a trois délibérations qui vont suivre. Une qui est relative au transfert de parcelles à la commune. Une qui est relative à l'offre de concours. Et une relative à la garantie d'emprunt contactée par la société immobilière Picard. Ensuite, il y avait un point 6, tableau d'effectifs modification, mais en fait, je vais le retirer de l'ordre du jour. Point 7, frais de scolarité, réciprocité de la ville de Compiègne et la commune de Verberie. Point 8, mise au gabarit européen de l'Oise, Mageo. Il fallait rendre un avis sur un dossier de, je ne sais pas, 13 000 pages ?
Bon, 3500
pages. 3500 pages. Bon, on en parlera tout à l'heure. Avis également sur le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sages du bassin Oise-Aronde. Salle des sports Les Alouettes, règlements et conventions d'utilisation. Ensuite, quelques mots sur le rapport d'activité du SE 60, exercice 2017, mais qui sera bien sûr à la disposition de tout un chacun. Et puis, les questions diverses. Voilà, et des informations évidemment, dans ce cadre-là. Donc, premier point, approbation du procès verbal des délibérations du Conseil municipal du 25 juin 2018. Remarque, commentaire, qui est contre, qui s'abstient, approuvé à l'unanimité. Décision du maire numéro 4 et numéro 5. Décision numéro 4. Monsieur Michel Arnoux, maire de Verberie, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2122.22 et L2122.23, vu le décret 2016-360 du 25 mars 2016, vu la délibération du Conseil municipal du 25 avril 2014 relative aux délégations accordées au maire et l'autorisant à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits aux différents budgets. Vu le budget de l'année 2018 adopté lors de la réunion du 12 avril 2018, et notamment l'inscription en section d'investissement de ce document budgétaire de crédit permettant les travaux de requalification de la chaussée et des trottoirs de la rue des Moulins et le bordurage de la placette, l'élargissement de la chaussée de la rue des Remparts, de création d'un accès parking au parking de la place des Remparts et de renforcement de voirie au droit de l'entrée de la société Francem. Vu le bon à marché de commande conclu par la centrale d'achat public de l'Oise-Capoise pour les travaux de requalification de la chaussée des trottoirs de la rue des Moulins et de le bordurage de la placette, d'élargissement de la chaussée de la rue des Remparts, de création d'un accès au parking de la place des Remparts et de renforcement de voirie au droit de l'entrée de la société Francem, décide de signer ce jour le marché de travaux avec la SAS Eurovia Picardie, boulevard Henri Barbus, Tourotte, titulaire du marché pour un montant de 194 596 euros et 80 centimes hors taxe. 233 516,16 euros TTC, prix révisable selon la formule du marché. Donc, sur ces différents... la requalification de la chaussée et des trottoirs de la rue des Moulins et le bordurage de la placette, ça va donc suivre la rénovation du réseau d'eau qui est actuellement en cours, qui est d'ailleurs bien avancé. Réseau d'eau qui a été remplacé parce que datant de 1955... avec une extension jusqu'au cimetière où on fait poser une bouche à incendie, ce qui renforce nettement la défense incendie. Voilà, donc ça, ces travaux-là devraient être terminés pour le 11 novembre. Élargissement de la chaussée de la rue des Remparts, c'est un sujet qu'on a évoqué notamment plusieurs fois avec M. Lamy, notamment. Donc ça serait plutôt à l'automne, octobre. Création d'un accès au parking de la place des Remparts, c'est pour avoir un parking d'accès alors que l'autre, ce serait de la sortie, pour assurer un peu de fluidité. Et renforcement de voirie au droit de l'entrée de la société Francem, c'est simplement parce que l'entrée poids lourd de la société Francem, en fait. Vous arrivez sur la départementale 932A, et puis vous rentrez juste au niveau du virage, vous avez une entrée... Pas l'entrée qui est perpendiculaire à la route, hein, celle qui est en amont, en direction de la croix. Là, vous rentrez en quittant en fait la D932A et en rentrant sur l'entrée de Francem. Il se trouve qu'entre la limite de la D932A et l'entrée de Francem, il y a 20 mètres. Enfin, 20 mètres, je n'ai pas été mesuré, mais vous allez voir 30 mètres qui sont sur l'espace public. Et là, ça s'était énormément dégradé. Ça posait des problèmes, effectivement, d'accès aux poids lourds. C'est un espace public, c'est à nous qu'il appartient quand même de faire les travaux. Donc là, on les a réalisés. Ils sont réalisés, d'ailleurs, vous pouvez aller voir ça. Ils sont réalisés et pour résister, effectivement, à des super lourds qui passent là. Voilà. Donc on a bien fait des travaux sur la voie publique, ou l'espace public du moins, en aucun cas chez le particulier. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je crois que c'était demandé depuis de nombreuses années, je ne sais pas combien, mais manifestement, ça datait d'un certain temps. Oui.
Donc, sur la rue des Remparts, vous disiez, le timing, c'est...
C'est octobre.
Aux vacances scolaires.
Sachant que les travaux devraient démarrer prochainement dans ce secteur-là, est-ce qu'on ne risque pas, d'un côté, de faire des travaux et éventuellement, avec les véhicules lourds qui iront pour les aménagements derrière, d'avoir quelques dégradations de nos propres travaux ?
Non. Enfin, on va, de toute façon, c'est un sujet, effectivement, c'est une question pertinente. Donc,
Auquel cas, on peut peut-être différer de quelques mois de manière à éviter ça. Quoi.
Alors, de toute façon, il est clair qu'on va, d'ici peut-être un mois, réunir les deux entreprises pour voir effectivement ce point-là. Mais il n'est pas évident que... voilà, ils vont d'abord avoir des travaux de défrichage, etc. Il n'est pas évident que voilà, les choses s'imperfèrent. On va voir ça à ce moment-là. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Y a-t-il des questions sur cette décision numéro 4 ? Non ? Je passe à la 5. Alors, Monsieur Michel Arnoux, maire de Verberie, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal du 25 avril 2014 relative aux délégations accordées au maire, l'autorisant à intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, décide de défendre la commune dans l'action intentée contre elle par Monsieur le préfet de l'Oise, déféré préfectoral devant le tribunal administratif d'Amiens, à l'encontre d'une décision de la commune de Verberie du 28 mars 2018, par laquelle le maire de Verberie a refusé à M. Kevin Da Silva un permis de construire, PC 060-667 14T008. Donc on a choisi la société civile professionnelle d'avocats Drail de Bailliencourt, le Tarnec Maigret, Senlis, pour présenter le mémoire en réponse, parce que c'est du tribunal administratif, ainsi que tous les compléments devant le tribunal administratif d'Amiens et représenter la commune dans cette instance, devant cette instance, dans cette affaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là ou pas ? Non ? Ok.
Quel est le motif du refus,
ce sont les places de stationnement. Je vais vous montrer. En fait, au PLU qui a été fait en 2001, il est exigé, comme ça a été rappelé tout à l'heure, deux places de stationnement par véhicule. Bon, pour moi, une place de stationnement, c'est là où on n'est pas d'accord avec le préfet, ça inclut quand même de pouvoir faire un minimum de manœuvres avec les véhicules et de ne pas être obligé de les déposer par hélicoptère. Donc, je vais vous projeter le plan, le permis de construire.
C'est le préfet qui met l'autorisation.
Oui, parce que lui, il dit non, il faut l'autoriser. Moi, je vais vous montrer, je ne me vois pas signer un permis de construire comme ça. Surtout que, élément supplémentaire, je sais très bien que là, ce ne sera jamais occupé par le constructeur, ça va être revendu. Et ensuite, d'abord, les gens qui vont le revendre vont se prendre des problèmes à leur niveau et vont évidemment débarquer ici en disant, voilà, comment ça se fait. Pardon, petit problème technique de quelques secondes. Je n'ai pas le document là, mais je vais vous l'expliquer. il n'y a pas de problème. Je regardais s'il n'est pas en bas.
C'est l'ordinateur qui apporte.
Non, je pense qu'il n'y a plus de batterie.
Il
n'y
a plus de batterie. Il n'est pas branché. Je ne sais pas s'il a pris son chargeur.
Le mage a été séparé. Excusez-moi pour ce manque d'énergie. Voilà, vous voyez projeté ici. Vous avez donc sur cette surface de très réduite de logements construits, 4 places de stationnement et avec un accès, vous voyez, par une en second rideau, par une voie qui fait 25 mètres. Voilà, tous les véhicules sont dans la rue. Faut être clair. Il n'y a pas la place de faire demi-tour, il n'y a pas. Voilà. Donc, moi, je ne me vois pas signer un tel permis de construire. Si on est condamné, bon, bah, ok, d'accord, on signera, mais en attendant.
En plus, il y a
ça
des
me semble quand même pas très sain pour la ville d'avoir ceci, surtout que ça va être revendu. Voilà.
Bon, si, c'est vrai que c'est pas génial. Maintenant, c'est vrai que aussi, sur le papier, c'est trop con, mais pas
trop. Pardon.
Je dis sur le papier, c'est peut-être
con. Ils sont peut-être pas prises toutes. Ils sont peut-être pas prises.
C'est vrai.
Là, je doute qu'on soit dans le cadre de l'intergénérationnel.
Ah, qui sait.
Et puis de toute façon, c'est un pari que là, on ne peut pas faire très clairement.
Enfin, la deuxième, on peut faire une marche arrière, mais bon, c'est pas trop
de marche arrière de 25 mètres.
Enfin, les jours. Sur place, c'est vraiment choquant. C'est là où Monsieur le Duc habite, hein, pour ceux qui... Il y a donc juste la maison de...
Derrière chez Monsieur le Duc.
Juste derrière, voilà. La maison est enclavée, en fait, ici. Ah, vous avez un long petit chemin qui mène jusqu'à...
Il est interdit de sortir en marche arrière sur la voie publique.
Je ne suis pas... je regarde tous les permis de près, évidemment. Je trouve qu'il y a des limites à ne pas dépasser, quoi. Ah voilà, on verra.
Tribunal jugera. Bah c'est bien, sinon, s'ils disent que c'est bon, ils l'ont.
Ah, là, ça va être des problèmes de voisinage.
Parce que là, les problèmes de voisinage vont.
C'est garanti. Là, c'est garanti.
En plus, alors après, on ne peut pas l'interdire, mais deux maisons comme ça, à proximité avec les voitures, ils ont intérêt à être copains, hein, tous les quatre. Hein. Enfin, tous les deux.
Et puis une maison devant, mais il y a aussi une maison derrière.
Oui, il y a aussi une maison derrière.
Et puis il y a aussi une maison derrière. Il y a une maison derrière et une maison devant.
Devant, c'est monsieur le duc, mais derrière, il y a quelqu'un d'autre.
Mais je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Hein ? Bon, pour info, quand même, sur l'appel à l'avocat, bon, on aura un petit supplément à payer, mais on a quand même une assurance sur cette affaire-là qui va nous rembourser en très grande partie l'intervention de l'avocat. Voilà.
Oui, parce qu'on avait pris une protection, j'avais dit.
Oui.
Hors éventuel pour le propriétaire, dommage qui serait demandé.
Comment ?
Pour le propriétaire, celui qui veut porter le projet.
Oui, mais devait, enfin bon.
S'il devait en arriver à demander des dommages pour être sur les
autres. Oui.
C'est hors ça, quand même.
Oui, enfin, après, on peut signer. Moi, il y a certaines choses, très honnêtement, je ne me vois pas les signer, monsieur Lamy.
Ah non, mais je dis pas le contraire. C'est pas ce que
voilà.
Je...
Non, non, mais
je. Je suis d'accord avec vous sur le fait que.
À un moment donné, on ne peut pas. Voilà. Bien. Je vous propose de passer à la suite. Donc la suite, eh bien, ça concerne la résidence intergénérationnelle. Donc le premier point concerne le transfert de parcelles à la commune. Donc c'est déjà un point qu'on a largement évoqué.
Là aussi.
Ah, tu remets un truc, moi je présente.
Oui.
Ah non, il y a pas de jour. D'accord, parce que j'en coupe plus après.
Je regarde lequel je mets. Voilà. Je pense que le mieux c'est de mettre celui-là.
Voilà, donc vous ne reconnaissez rien du tout, puisqu'il y a, pour l'instant, ça s'allume. Je vais commencer à le lire, mais normalement, vous avez eu, évidemment, tout ça dans la synthèse. Donc ça devrait s'allumer. Dans le cadre du projet de construction de la résidence intergénérationnelle, Monsieur le Président de séance rappelle que par délibération du 24 mai 2018, le Conseil municipal a décidé d'émettre un accord de principe pour le transfert à la commune à l'euro symbolique de la zone humide après aménagement dû pour compensation par la société Link City. L'entretien de cette zone de compensation par la commune qui en deviendra propriétaire. Donc nous avions déjà eu un long débat sur cette affaire-là. Bon, il a l'air de bouder, quoi.
Non, il va démarrer.
Il va démarrer.
Il faut qu'il y ait
3
décembre. Ça y est, tiens. Oui, ça arrive. Alors, Monsieur le Président propose à l'Assemblée que soit soumis au vote comme prérequis indispensable à la signature des actes authentiques de vente portant sur l'achat de la parcelle AC136. Donc la parcelle AC136... c'est l'ensemble de ce que vous voyez. Attendez. Pour moi aussi que je le vois. Donc la 384, la 387, la 385 et la 386.
Il y en a une 385 et 386 sur la droite.
Oui.
Il y a des parcelles aussi.
La 387, c'est la 387 ou la 87 ? Parce que s'il y a une erreur de.
C'est la 387. C'est marqué en petit 87, alors je sais pas pourquoi, mais en dessous c'est marqué en grand 387.
Alors, si tu peux descendre un peu, bon, t'arrives ?
Alors là, voilà.
J'avais pas.
Donc, ici, on parle de la. Alors, Monsieur le Président propose à l'Assemblée que soit soumis au vote comme prérequis, enfin je viens de vous le lire, donc je passe à la suite. L'accord de la commune pour devenir propriétaire après transfert par la société immobilière Picard à loyer modéré, il y a l'adresse, Amiens. Des lots portant sur les numéros, donc 387, d'une surface de 6682 mètres carrés, et 386 d'une surface de 136 mètres carrés. Détaché de la parcelle cadastrée AC numéro 136, suivant le plan de division annexé au document. Vous le voyez là, il est proche d'aller. Étant entendu que la parcelle 387, constituant la partie sud de la parcelle AC 136, qui intégrera notamment une zone humide de compensation de 4500 m², une noue ouverte, un chemin existant et une zone de remblai résiduelle, sera transféré dans sa totalité à l'euro symbolique après réalisation des aménagements dus et imposés par l'État et réalisés par la société Link City Grand Ouest suivant les prescriptions du dossier de déclaration au titre de l'article L210-1 du Code de l'environnement, numéro de dossier 60-2018-0008, bénéficiant d'une autorisation de la Direction départementale des territoires de l'Oise en date du 21 mars 2018. Étant entendu que la parcelle 386 sera transférée à titre gratuit à la ville de Verberie, cette parcelle constituera une voirie sans réseau d'entrée fonds qui sera réalisée suivant les mêmes cahiers des charges que ceux utilisés pour réaliser la voie attenante constituée par le lot 3 du PCVD. Cahier des charges annexé à la convention tripartite de transfert d'espace commun signée en date du 20 septembre 2017 entre la ville de Verberie, Link City Grand Ouest et le CIVOM Eau et Assainissement de Verberie. C'est quelque chose qui, évidemment, a été passé en conseil municipal. Le transfert de la parcelle 387 donnera lieu à la signature d'une convention de transfert d'espace commun entre la CIP et la ville de Verberie, au plus tard le 31 décembre 2018. Le transfert de la parcelle 387, constituée en voirie, donnera lieu à la signature d'une convention de transfert d'espace commun entre la CIP et la ville de Verberie, au plus tard le 31 décembre 2018. Point 2, accord de la commune pour l'entretien des différentes parcelles, donc 386 et 387, y compris pour la zone humide de compensation par la commune, qui en reviendra propriétaire à compter de la date de transfert de propriété de ces parcelles à la ville de Verberie par la SIP d'HLM. Voilà. Donc on a déjà parlé de tout ça tout à l'heure, largement. Donc je propose de passer au vote.
J'ai une remarque.
Allez-y.
Une remarque à faire. C'est que nous n'arrivions pas à entretenir les rosiers puisque vous les avez fait arracher, plusieurs centaines de rosiers sur la ville. Et là, je me demande comment vous allez pouvoir entretenir puisque vous arrachez déjà les rosiers. Alors comment là, il y a 7000 m², puisque vous n'arrivez déjà pas à entretenir les rosiers de la ville et vous les faites arracher, comment vous allez pouvoir entretenir les 7000 m² difficiles? Parce que les zones limites sont plus difficiles à entretenir que les rosiers.
Non.
C'était simplement une remarque.
Alors, ce qui est dit là, non, les zones humides ne sont pas plus difficiles à entretenir que les rosiers. Ce qu'on nous demande, c'est d'empêcher la prolifération d'espèces, comment on dit, envahissantes, invasives, voilà, je cherchais le terme, pardon, et également d'éviter la repousse d'arbres. Voilà. On avait d'ailleurs fait chiffrer, et Link City avait fait chiffrer par une société le coût de cette affaire-là. En cas où on l'externalise, et ça revient à 2000 euros tous les deux ans, donc 1000 euros par an. Voilà ce sujet. Ensuite, évidemment, d'ailleurs, il y avait une notice concernant ça, je pense qu'elle a été transmise avec sur l'entretien, elle a été transmise dans le dossier, dans le dossier de synthèse. J'ai évidemment vu le directeur des services techniques qui m'a confirmé que non, il n'y avait pas un travail énorme à faire sur ces affaires-là. Un travail tout à fait courant. Voilà. Sachant que tout sera mis en ordre par Link City. Hein. Puisque ça fait partie ça fait partie effectivement de leurs engagements, comme on vient de le voir. Bon, pas un cadeau empoisonné, puisque je vous rappelle que sur cette affaire-là, on a déjà évoqué qu'on pourrait avoir un projet de voie douce entre la rue d'Aucourt et les parcelles qui sont là, 386 et 385, et qui, si on met en place cette voie douce, pour lequel nous pouvons avoir des subventions de la part de l'Agence de l'eau, puisqu'on est sur une voie humide, ça nous permettra aussi peut-être d'apporter plus de sécurité à un certain nombre d'habitants qui désirent venir vers le centre-ville.
Donc, le chemin nous appartenait déjà. Hein.
Comment ?
Il y avait déjà une voie qui nous appartenait.
Alors, oui, enfin, la voie qui nous appartenait, en l'occurrence, elle est peu praticable. Elle est noyée par l'eau. J'y suis encore allé il y a quelques jours. Elle est complètement noyée par l'eau. Et là, évidemment, on fera un aménagement d'un autre type. Qu'on voit d'ailleurs maintenant, on voit des aménagements en bois suspendus, on en voit un peu partout. Voilà, mais ça c'est l'avenir. Bien, propose de passer au vote.
Préalable, s'il vous plaît, je voudrais qu'on envisage un vote nominatif sur ce sujet.
Bon, il n'y a pas de problème. Vote nominatif, il n'y a pas de problème. Madame, ça se passe comment ? Il faut noter les personnes, c'est ça ? Qui ont voté...
Il est soumis à l'Assemblée et c'est 25% des votants. Sauf à ce que vous considérez que vous faites directeur.
Comment ?
Sauf à ce que vous considérez que vous faites directeur.
Comment ?
Comme ça, on sur les numérations, il n'est pas indiqué qui vote pour.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce sujet, madame ? D'accord, il faut qu'il y ait 25% de l'Assemblée qui le demande.
La demande du quart des membres présents.
Demande. Alors, ça veut dire que les pouvoirs n'interviennent pas.
C'est que les présents.
Bien. Bon, ben, qui demande... Donc, ça s'appelle un vote nominatif, c'est ça, madame ?
Ça s'appelle un vote au scrutin public.
Un vote au scrutin public. Qui demande un vote au scrutin public ? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, attendez, je reprends ma liste. Nous sommes 17. Donc, on dépasse les 25%. D'accord ? Donc, on va faire un vote au scrutin public. Très bien. Bon. Donc, maintenant, on y va. On passe au vote. Il faut peut-être qu'on ait une liste, oui. C'est bon ? Donc... Qui est contre ? Alors, levez bien la main, là. Je vous demande de...
Dites-moi les noms.
Alors,
Monsieur Lamy.
Monsieur Floury est la personne avec son pouvoir. Madame Barouin et son pouvoir.
Oui.
Monsieur Cournil.
Monsieur Cournil, il n'avait pas de
non,
pouvoir.
Non. Et Madame
Robon
et pouvoir. Son pouvoir. Pardon, excuse-moi, Lydia.
Non, pas de problème. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, tous les autres, en fait. Hein. Donc là, je pense que on n'a pas besoin de relever les noms. Non, enfin, on n'a pas besoin d'énumérer les noms, pardon. C'est ce que je voulais dire.
C'était 52, 22 moins 8, ça fait 14.
Bien. Deuxième point pour la résidence intergénérationnelle, l'offre de concours. Alors, l'offre de concours, c'est un procédé que je ne connaissais pas jusqu'à présent, mais qui est parfaitement légal. Un particulier peut faire une offre de concours, c'est-à-dire qu'il désire réaliser à ses frais quelque chose sur l'espace public qui a un intérêt pour lui. Il envoie donc un courrier au conseil municipal. Le conseil municipal vote pour, il réalise ses travaux, encore une fois, à ses frais. Il vote contre, on ne fait pas les travaux sur l'espace public. Voilà. Donc là, Link City nous fait une offre de concours. L'offre de concours, elle est destinée à quoi? Elle est destinée à faire la voirie. Et à faire, la voirie, c'est l'essentiel. Hein. Il y a aussi une nous. Voirie et nous. Sur les parties qui sont sur l'espace public. Alors, si on peut rallumer, je ne sais pas, il y a eu un problème.
Oui, c'est moi qui
l'ai
fait.
Ah, pardon. Excusez-moi. Bon, je lis, c'est juste pour voir les deux parcelles. Donc, la construction de la résidence intergénérationnelle réalisée par la société Link City Grand Ouest a fait l'objet d'un permis de construire. Afin de viabiliser le terrain 6 sur la parcelle cadastrée AC136, une voirie d'accès doit être réalisée depuis la rue des Remparts jusqu'au programme de construction, soit sur une partie des parcelles cadastrées, section AC135 et AD61. Une portion de voirie est la cendre des Merlets dépendant du domaine public de la commune. Donc, l'offre de concours, elle porte sur l'espace public et aussi sur le domaine privé de la commune. Donc la parcelle AD61, elle est, dès qu'on la verra, AD135, c'est vraiment la pointe. Alors, hein, c'est quelques mètres carrés. C'est un petit morceau qui est en pointe. Voilà. Et puis, bien sûr, une partie qui est sur l'espace public, qui se situe ici. Oui, il y a une vente qui est en mouvement à ce niveau-là. Effectivement, pour avancer un petit peu ici. Mm. Donc voilà, donc on vous a distribué, vous avez reçu tous les documents qui sont relatifs à cette offre de concours, qui reprend tout ce qui est le détail des prestations prévues conformément, très bien, conformément à ce qu'on avait voté en 2017, hein, dans le, comment on appelle ça, de transfert, enfin l'accord de transfert, ok. Donc là, il s'agit de permettre la réalisation de la voirie et d'une noue. D'ailleurs, donc voirie de 276 mètres carrés et une noue ouverte de 35 mètres carrés. Voilà. Hein, qui est le long de la Sente des Merlets, la noue ouverte de 35 mètres carrés. Qui va d'ailleurs bien récupérer l'eau du fond des jardins de la rue de Paris. Qui était ennuyé depuis un certain temps avec tout ça. Voilà. Sur cette offre de concours, je vous propose de passer au vote. Donc, vous demandez de nouveau la même chose ou pas ?
Non, c'est sur le principe, ça nous est quand même plus favorable que le premier.
Bon, en tout cas. Bon, très bien. Pour l'offre de concours, donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, adopté à l'unanimité. Le dernier point concerne donc les garanties d'emprunt. Le document garantie d'emprunt. Voilà. Donc on en a parlé largement tout à l'heure. Le sujet a été évoqué largement. Donc Monsieur le Président de séance fait part à l'Assemblée de la demande de la société immobilière Picard d'HLM concernant le financement de l'opération acquise en VFA de 44 logements, 28 plus et 16 PLI. PLAI situé lieu dit près d'Aramon. Pour réaliser cette acquisition, la SIP HLM envisage de contracter deux prêts auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'un montant de 572 115 € et 28 centimes et de 4 817 241 € et 7 centimes. Une garantie pour ces deux emprunts est une condition de leur octroi. L'agglomération de la région de Compiègne, de la Basse-Automne, considérant que la construction d'une telle résidence est conforme aux critères d'intérêt communautaire, a décidé par délibération du 5 juillet 2018 d'apporter sa garantie à hauteur de 50% pour les deux contrats de prêt. En fait, l'un porte sur 44 logements, et l'autre sur 4 logements qui sont des logements PLS. Considérant que l'analyse des contrats de prêt entre la CIP HLM et la CDC et de la solidité financière de la CIP HLM ne fait pas apparaître de risque particulier de défaillance pouvant entraîner l'engagement de la commune par la commune de sa garantie, vu l'avis de la Commission des finances en date du 23 août 2018, Monsieur le Président propose d'accorder sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 572 115 € et 28 centimes souscrit par la CIP HLM auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 79 842 constitué de 3 lignes de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Bon, ils vous ont été transmis, ces éléments-là. D'accorder sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 4 817 241 euros et 7 centimes, souscrit par la SIP HLM auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 79 799, constitué de 4 lignes de prêt, ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. D'apporter sa garantie aux conditions suivantes, la garantie de la commune est accordée à hauteur de 50% pour la durée totale du prêt et jusqu'au remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la commune s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. De s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Alors, juste un rappel, je me tourne vers l'adjoint aux finances. Les prêts, ce sont des prêts à taux fixe
Non, ce sont des taux indexés sur le livret caisse d'épargne. Hein,
donc, point de vue risque,
c'est le taux moins important.
Voilà, en plus. Donc, c'est vraiment... c'est pas des prêts en eux-mêmes. Ce ne sont pas des prêts risqués. On risque pas d'avoir... je sais plus comment on les appelait, là, les prêts... toxiques, voilà. On risque pas d'avoir de prêts toxiques. Voilà. Questions sur ce sujet ? Non. Je vous propose de passer au vote. Oui ? Bien. Qui demande donc un... Nominatif. Attendez, c'est un vote public, c'est ça ? Vote.
Nominatif.
Non, c'est pas nominatif, c'est...
Un scrutin public.
Un scrutin public. Alors, qui demande un scrutin public ?
Les mêmes.
Bah non. Madame Grosbon, votre... vous ne votez pas pour les pouvoirs. Voilà. Donc 5. Donc on va voter effectivement un scrutin public. Très bien. Qui est contre ? Donc Madame Grosbon et son pouvoir, Monsieur Cournil, Madame Barouin et son pouvoir, Monsieur Lamy, Monsieur Floury et son pouvoir. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc les autres. Donc on va noter les noms. Alors on se porte garant et vous. Enfin, il y a tout ce qui a été dit tout à l'heure, évidemment, on ne revient pas dessus, mais c'est ce qu'on va appliquer.
Frais de scolarité.
Comment ?
Frais de scolarité.
Alors, sujet suivant, frais de scolarité. Je vais peut-être me reposer un peu en demandant à monsieur l'adjoint aux affaires scolaires de prendre le relais.
Alors, les frais de scolarité, donc réciprocité entre la ville de Compiègne et la commune de Vernory. En fait, il s'agit de lorsque nous avons un enfant qui habite Compiègne et qui est scolarisé chez nous, la ville de Compiègne peut facturer les frais de scolarité et inversement si un enfant voilà. Et donc ils ont pour habitude de procéder à ça, ce qui est c'est la façon intelligente de gérer les choses, c'est-à-dire qu'on va pas se facturer pour l'enfant. Nous ne le faisons pas.
Voilà, pour le coup, je pense qu'on peut arrêter.
Ouais. Nous ne facturons pas, nous, les frais des enfants qui sont extérieurs. Et après vérification, de toute façon, nous ne sommes pas concernés puisque aucun.
On
n'a pas d'enfant, voilà, pour l'instant, qui habite Compiègne et qui est scolarisé à Verbeur. Et puis, je précise que les enfants de l'école Open World, qui, eux, pour le coup, sont. Bien souvent des villes, notamment de Compiègne, où ne sont pas concernées, puisque c'est une école privée.
Voilà. Et puis, aujourd'hui, on a fait le point. Donc, en fait, on a un enfant de Verberie à Compiègne, voilà, et zéro enfant de Compiègne ici. C'est ça, madame Jalot.
Zéro enfant à l'école.
Ah oui,
il y a un à Compiègne, je sais pas.
Oui, si, on avait regardé ça. Je crois qu'on en avait un à Compiègne. Toujours est-il que, de toute façon, on pense bien que... On a plus de chances d'avoir des enfants scolarisés à Compiègne, de Verberie scolarisés à Compiègne, que des enfants de Compiègne scolarisés à Verberie. Le marché du travail étant ce qu'il est, les entreprises se trouvant où elles se trouvent, Voilà. Donc, en gros, ça nous est de toute façon favorable. Quelque chose à ajouter ?
Non, sauf si vous avez des questions.
Questions ? Bon, ça, donc, c'est un accord, non pas au niveau de l'agglomération, mais entre la ville de Compiègne et nous. On passe au vote ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Point suivant, mise au gabarit européen de l'Oise Mageo entre Creil et Compiègne. Donc, on a pas mal travaillé dessus avec l'adjoint à l'urbanisme, comme vient de le dire M. Brouillard, 3500 pages, reçu le 21 juillet pour un avis à rendre à la préfecture avant le 15 septembre. Mais comme le conseil municipal était là, on l'a regardé pour aujourd'hui. Donc, je vous propose l'avis suivant, qui vous a été distribué normalement. La commune de Verberie regrette le délai particulièrement court qui lui est accordé pour rendre son avis compte tenu de la période estivale et de l'épaisseur du dossier. De ce fait, elle a été dans l'incapacité de l'analyser en détail. Elle est donc susceptible de présenter de nouveaux éléments au moment de l'enquête publique. La commune de Verberie émet un avis favorable, assorti de réserves, tel qu'il figure sur la cartographie du dossier. Le recintement situé en aval du pont de l'Oise, à Verberie, impactera de manière importante les réseaux dont celui d'assainissement, les équipements qui y sont liés et la steppe. Il impactera également l'accès poids lourd à la steppe, le parc du château d'Aramont, et impliquera le déplacement d'une partie du mur de clôture en pierre et la coupe de certains arbres. Le projet doit recréer la totalité de ces éléments avec un niveau de qualité au moins équivalent à l'existant, y compris sur l'aspect patrimonial et le maintien de l'ensemble des fonctionnalités, point qui ne semble pas vraiment évoqué dans le dossier. Parce que si le dossier évoque bien le fait que tout soit reconstruit, il n'évoque pas la qualité de ce qui sera fait. On peut se le poser au moins à deux endroits. Il y a un endroit, c'est de dire d'abord s'ils refont le mur, nous c'est un mur en pierre, il ne faut pas qu'ils nous refassent un mur en parpaing, en gros. Hein. Et puis ensuite, le deuxième point... c'est sur nos réseaux. Alors, j'espère qu'on a des réseaux en fonte là-bas. En tout cas, si on avait des réseaux en fonte, il n'est pas question qu'ils nous fassent des réseaux avec, je ne sais pas quoi, du PVC, j'en sais rien. Voilà, il faut qu'on assure. Parce qu'on a quand même pas mal d'installations, finalement, le long de l'allée des Soupirs, puisque c'est les bords de l'Oise. Et voilà, il y a pas mal d'installations qui sont liées à l'assainissement. Et à d'autres réseaux pluviales, réseaux électriques, je pense aussi. Voilà. En outre, vu la complexité des travaux à réaliser sur cette portion, il est nécessaire qu'une opération d'ensemble spécifique soit mise en place et que la commune y soit étroitement associée au plus tôt. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, les travaux de recintement entraîneront l'évacuation d'une grande quantité de déblais. La commune de Verberie demande à ce que ces évacuations, si elles sont faites par voie routière, ne traversent pas la commune. Bon, normalement, ils disent qu'ils font ça par la voie fluviale. Bon. Mais bon, ce serait quand même logique.
Ça
ne coûte rien de le dire. Là, ce qu'on a mis. La mise en place d'un système de collecte et de ramassage des déchets, des péniches, en différents points du parcours est nécessaire pour la phase d'exploitation, mais n'est pas évoquée dans le dossier. Alors c'est aussi un point qu'on a remarqué, ils font des aires de stationnement, mais qui assure la collecte, etc., pour au moins traiter le sujet. Le dossier, page 42, évoque la reconstitution de berges avec des améliorations spécifiques qui ont vocation à être restituées aux collectivités locales, celles-ci devant en assumer l'entretien. Il est indiqué que ces aménagements font pour l'heure l'objet de discussions avec les collectivités. L'un de ces aménagements, dénommé les planches d'exploration de Verberie, concerne apparemment la commune. Jusqu'à ce jour, la commune n'avait pas connaissance de ce point. Elle demande à être informée et qu'une discussion s'engage avec le porteur de projet, comme mentionné dans le dossier. Point suivant, la création de pontons pour les pêcheurs n'est pas une mesure compensatoire satisfaisante. Il est nettement préférable de maintenir et ou de créer des accès pour les pêcheurs sur les berges réaménagées. Dernier point, La lecture du dossier ne fait apparaître aucun aménagement à titre compensatoire au niveau du quai situé sur la rive de Verberie, juste en amont du pont sur l'Oise. Quels sont les aménagements prévus ? Voilà ce que j'ai noté, ce que nous avons noté, c'est un travail collectif évidemment. Questions, remarques ?
Les planches d'exploration de Verberie, ça veut dire quoi ?
Je ne sais pas.
Ce sont des planches.
Bah non, non, parce qu'il parle d'une amélioration spécifique. C'est un truc décoratif, j'en sais rien, moi. Mais encore une fois, j'ai lu ces mots-là, c'est tout. Je n'ai pas d'autres explications à donner.
Ni où c'est situé.
Ni l'emplacement, ni je ne sais pas.
Parce que là, quand même, avec le cas, là,
oui.
le risque, l'avantage, de toute façon, c'est qu'il y ait plus, évidemment, de circulation, c'est pour ça que c'est fait.
Sinon, on ne le ferait pas.
Donc, sinon, on ne le ferait pas, effectivement. Mais ce qui veut dire aussi que, potentiellement, on aura un accroissement mécanique de l'usure de nos berges.
De bâtillage, oui. Ah.
Et donc, pourquoi du fait, du nombre de bateaux. Après, on peut discuter, dans le fond, de la taille des bateaux, du déplacement d'eau, voilà. De charge ou pas. Mais quoi qu'il en soit, le nombre de bateaux, déjà, fera que ça va amplifier le phénomène.
Alors, il y a eu des discussions là-dessus, déjà pas mal de discussions. Évidemment, il y en a les uns qui nous expliquent, puisque les bateaux sont plus longs, je ne sais pas quoi, ça use pas plus, etc. Enfin bon, donc vous avez raison, on peut être quand même très, très dubitatif.
Ce sont ceux qui paient qui vous disent qu'il n'y aura pas de problème, généralement.
Ben oui, c'est un indicateur. C'est comme ceux qui vous disent que le café est bon pour la santé, sachant que c'est une étude financée par les marchands de café. Ça rejoint à peu près le même raisonnement. Donc, là, moi, je veux bien ajouter quelque chose sur ce point-là. Ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, qu'est-ce qu'on marque ? Moi, je veux bien.
Sur ces berges, aujourd'hui, on a quand même une présence d'arbres qui, quoi qu'il en soit, avec le tissu racinaire, maintiennent la berge.
Ouais.
Participent, en tout cas. Ouais. C'est l'avantage sur ce secteur-là, parce que sur les secteurs où il n'y a pas de racines, forcément, ça part encore plus fort. Donc demain, quand on les retire, alors, on arrive au bord du mur, quel sera l'aménagement alors, pour protéger ?
Attendez, il y a les endroits où c'est réaménagé et les endroits où ce n'est pas réaménagé. Aux endroits où ce n'est pas réaménagé, le système racinaire, tout ce que vous expliquez, il restera là. Les endroits où c'est réaménagé vraiment, moi, je n'ai pas trop d'inquiétude, parce qu'ils montrent quand même des styles de berges. Alors, il y a différents types de berges en fonction de la
profilé
pente,
différent.
En fonction des lieux, etc. Les dossiers, encore une fois, je crois que vous avez reçu un mail, vous pouviez venir consulter les 3500 pages. Toujours est-il qu'il y en a, c'est de l'enrochement. La pale planche, c'est très rare, donc vertical. Et puis après, il y en a, c'est vraiment des bords en pente douce avec des plantes, etc., qui sont mises là, de la ripisylve. Donc, bon, je ne suis pas trop inquiet de ce côté-là. Quand je regarde les berges de Verberie, c'est d'ailleurs une réponse qui avait été faite avant 2014, où il était indiqué que nos berges étaient en bon état. Pour les berges qui n'étaient pas, encore une fois, réaménagées, hein, étaient en bon état. L'endroit où elles sont réaménagées, on vient d'en parler, l'endroit principal, parce qu'il y en a quand même d'autres petits points, c'est effectivement après le pont sur l'Oise, en direction de Ruisse. Là, il y a tout cet espace qui est réaménagé pour rescinder, on dit, c'est en fait pour que le virage soit moins fermé et puisse permettre la taille, le passage de la taille de ces bateaux. Là, de toute façon, ils vont refaire les berges, donc je ne suis pas non plus trop inquiet. Là où il y a des berges abîmées, mais elles ne sont pas sur notre territoire, c'est juste en face. Sur Longueuil, il y a des berges qui sont quand même bien abîmées, que ce soit au niveau de Bic ou que ce soit d'ailleurs en amont du pont, au niveau du silo, etc. Là, il y a des berges, il n'y a pas de système racinaire, pas d'arbres. Voilà. Mais à titre de précaution, au contraire, moi je veux bien rajouter quelque chose, mais qu'est-ce qu'on leur demande ? On leur demande de prendre en charge l'entretien des berges, ce à quoi ils ont déjà répondu non. Bah oui, ils ont déjà répondu non, donc, mais on peut le marquer quand même. Hein, mais... Voilà. Moi je veux bien marquer quelque chose, mais quoi ? Parce que j'y avais pensé en le rédigeant, mais je dis qu'est-ce que je marque ?
Le problème c'est que si on est sur, vous disiez, une pente douce et ainsi de suite, et que. Bien, mais quoi qu'il en soit, avec, ça risque à un moment donné d'arracher. Moi, ça m'inquiète un petit peu. Ça m'inquiète un petit peu quand même. L'enrochement, c'est une solution. solution, mais qui pour eux est plus coûteuse, donc ils vont essayer d'éviter.
Non.
La planche, par contre, c'est pas génial, parce que ça donne un côté, qui est...
Non, mais alors là, les pales planches, ils en mettent vraiment où...
Dans
les zones urbaines où ils peuvent pas faire autrement, ils peuvent pas s'étaler. Là, ils mettent de la pale planche, mais je crois que nous, c'est pas de la pale planche. Hein. Ils hésitaient.
Il y a quand même tout le tronçon qui est entre en aval du pont de Verberie et jusqu'à la steppe, voire au-delà, puisqu'ils vont maintenant avec le ressentiment presque sous le pont du TGV. Sur le côté du château, sur cette partie-là, tandis qu'ils élargissent quand même pour le passage, à mon avis, je pense que là, ils en avaient parlé, mais je pense qu'il y aura des pales planches quand même plusieurs
fois. La longueur du bateau, si je me souviens, c'est 180 mètres. Hein. Mmh.
Alors, il faut
deux fois 90.
J'ai la catégorie.
De 4500 tonnes.
4000 à 4500 tonnes.
Alors, c'est la catégorie 5B.
2000 tonnes.
Les Fraissinets, c'est 600 tonnes et les Poulons, ouais. C'est 1200 tonnes.
C'est sûr que c'est pas du tout le même.
C'est pas la même échelle.
C'est pas la même échelle.
Alors, le pont,
Ils peuvent passer sur le pont.
Oui, oui. Ils passent sous le pont avec deux rangs de conteneurs. Mais pas trois.
Ce qui pose problème. Ils peuvent normalement mettre trois rangs.
Il y a un tirant d'eau qui n'y est pas, mais ça va
être recreusé. Ça va être recreusé aussi.
S'il y avait une troisième rangée de conteneurs, il fallait faire tous les ponts.
Passez pas, non.
Enfin, il y a des ponts qu'il fallait refaire. Enfin, il y a des ponts comme Verberie, à la limite, c'est pas très cher, mais il y a des ponts historiques, etc.
En exemple de pont Saint-Maxence, le pont, en fait, il fallait le rehausser, ce qui faisait que le tablier du pont arrivait finalement au premier étage des bâtiments où il est aujourd'hui, et il fallait une rampe de...
Puisqu'on
est en plus sur des axes lourds, qu'on va exceptionner.
Pour l'instant, c'est pas d'actualité, donc...
Ça a été abandonné.
En plus, le pont, c'est un pont en béton. Avec Verberie, c'est un pont métallique. Et 90 cm suffisait pour le tirant.
Mais bon, il n'est pas question de ça aujourd'hui.
90 cm, c'est trop.
Alors,
mais par contre,
moi, ce que j'ai noté de ce que vous venez de me dire, en fait, vous dites si je me trompe ou pas, c'est que, en gros, ce serait de dire, vous allez réaménager les berges en certains endroits. S'il y avait un défaut de construction, j'en sais rien, ça n'a pas été bien fait. Au bout de quelques années, on voit que ça s'en va. À ce moment-là, la rénovation de ces espaces-là est à votre charge.
Non, mais de toute façon, après, une fois qu'ils ont réalisé les travaux, s'il y a entretien et si ça se dégrade, ce sera pour nous. Hein. C'est pour ça qu'on a tout intérêt aujourd'hui à insister sur le fait que les aménagements qui seront proposés sur ce secteur-là, d'autant qu'en plus on a des réseaux sensibles sur le périmètre, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui.
On a tout intérêt à demander qu'on ait des aménagements plus forts. Pour essayer de se garantir un maximum dans le temps.
C'est un peu pour ça que j'ai demandé à ce qu'il y ait une opération d'ensemble, parce que il faut tout traiter d'un seul coup, et qu'on y soit étroitement associé.
À titre d'information, les pales planches, j'ai dû en mettre sur un territoire pour 150 mètres, je crois, de mémoire, on avait payé quelque chose comme 500 000 euros.
Ah ben ça va vite, hein. Ça va vite, il faut la planter, la pale planche.
Parce que tout s'effondrait, la route partait. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre ce genre de choses.
Donc, résumons-nous sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on marque ? On marque que sur les berges qui seront réaménagées dans le cadre de Mageo, s'il y avait un défaut de... Enfin, au bout de quelques années, elles se dégradent, à ce moment-là, ils prennent une assurance, prennent ce qu'ils veulent, mais ça doit être à la charge effectivement du porteur de projet.
C'est quoi la durée ? Est-ce qu'il y a une garantie décennale comme pour les bâtiments ?
Ouais, il doit avoir
les berges, c'est particulier.
Je pense que c'est pas rajouter simplement ici, il faut qu'elle ait raison cette phrase-là. Vous avez la complexité des travaux, il est nécessaire donc d'entendre de spécifiques qui soient mis en place et que la commune soit étroitement associée.
De toute façon, les réseaux vont littéralement déplacer.
Par exemple,
parce que le ressentiment, il va pratiquement. Ils vont trop déplacer.
Mais l'usure de la verge, à un moment donné, ça rattrape.
Surtout s'il y a plus de bateaux qui passent.
Bon, effectivement, on peut le rajouter dans le point, c'est ce que me disait Laurent Baumler. On peut le rajouter dans le point, le premier point, en fait, tel qu'il figure sur la cartographie du dossier, le recensement, etc. Et là, ajouter quelque part que l'opération d'ensemble doit prévoir des berges particulièrement résistantes pour sauvegarder nos réseaux.
Par exemple, le choix des berges, voilà, qui résistent.
On fait comme ça ?
Oui, que le choix technique qui sera fait, compte de
sensibilité. Alors, il y a un autre point que j'avais oublié d'ajouter, mais qui me revient à l'esprit, c'est qu'on peut quand même travailler à côté du point de captage. Et là, j'avais dans l'idée que quand ils travaillent à côté du point de captage, il faut leur demander de faire des analyses d'eau régulières pour vérifier qu'on n'a pas de problème à ce niveau-là. Comme ils vont remuer le fond, etc. Ben nous, c'est à 70 mètres. Mais bon, bon voilà.
On peut le demander quand même. Hein.
Comment ?
Plus de 70.
Je sais pas, j'avais 70 mètres en tête. Mais bon, vous avez peut-être raison. Hein.
Ouais. Et là, il n'y a aucun
pont. Pensez que ça ne risque pas.
Il n'y a aucun pont qui est prévu en...
Ah non,
bah, géo, non.
Non, il ne touche pas au pont, a priori.
Non, parce qu'il ne passe pas, enfin, pas un pont et qu'il y a un report de circulation qui serait carré chez nous.
Pas sur Verberie. Hein.
Parce que s'il touche le pont, par exemple, du Meux, les gens ils vont traverser
à la Verberie. Ah non, il ne touche aucun pont.
Ouais. Ouais, enfin, le pont du Meux, il est pas très... Je ne sais pas duquel tu parles, mais il est interdit aux poids lourds. Hein.
Oui.
Donc lui, il nous embête bien qu'il soit interdit aux poids lourds.
Oui. Oui.
Donc sur le point de captage, effectivement, on est très profond quand même. C'est plus ouais, peut-être sur la Croix-Saint-Ouen. Il est quand ils même peuvent avoir des problèmes.
Il est quand même en amont du pont. Il est quand même assez... La seule chose qui peut l'impacter autre, c'est quand ils vont faire le réempierrage du pied de la pile, puisqu'ils vont renforcer le pied du pont. Mais il y a que ça qui se rapproche vraiment, parce que le rescindement il est plutôt en aval que de l'autre côté, et après sur l'autre partie où ils rescindent sur la grosse partie qui est vraie, c'est beaucoup plus haut sur le parc là-haut en haut.
Bon, on rajoute donc le point tel qu'il figure sur la cartographie du dossier, etc., de solidité des berges. Solidité des berges pour préserver nos équipements. Enfin, c'est, je l'écris comme ça.
Oui, sur le petit.
On nous parlait du maintien de la fonctionnalité, c'est la voirie. Enfin,
ouais.
La voie.
Oui, parce qu'ils étaient venus nous voir une fois. Et sur l'allée des soupirs, ils ont dit, bah, on va vous faire une belle allée piétonne. Ah non, ça ne marche pas comme ça, c'est des poids lourds qui passent là. Donc ce n'est pas une allée piétonne comme vous le faites.
Oui, parce qu'à un moment, ils disaient, bah, ils font le tour.
Après, il y a une opération d'ensemble à mener, à eux de nous expliquer comment ils vont faire. Mais il me faut la fonctionnalité d'accès poids lourd pour les boues à la station d'épuration.
Ça risque quand même de passer par l'autre côté, parce que le rescindement, l'allée des soupirs disparaît. Et si on veut refaire recréer une voie d'accès ou quelque chose comme ça, c'est dans le parc du château.
Dans le bas du château.
Parce qu'il est large, le rescindement. Il est très très large.
J'avais la carte du rescindement, mais j'hésite à l'afficher.
Ils sont pas loin du mur.
Ils sont pas loin du mur. Avec les projections, ils sont
bêtement... Il y a même des endroits où le mur disparaît, parce qu'ils en avaient parlé.
Alors, c'est pas pour tout de suite.
Non.
Parce que de toute façon, le canal Seine-Nord, c'était 2023. Je lisais hier que maintenant, c'est plutôt 2027. C'est en train de se déplacer. Ma géo, ça va bouger aussi.
Enfin, les expropriations ne sont pas commencées.
Non.
Donc, avec les
recours, 10 ans, 15 ans, une quinzaine d'années.
Bon, par contre, ben voilà, il faut prendre date. Et l'enquête publique, par contre, va peut-être pas trop tarder. Voilà. Compte tenu de ce qui a été ajouté sur la solidité des berges, on procède au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Le point suivant concerne le sage Oisaronde. Alors la commission locale de l'eau du bassin Oisaronde a adopté son projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, sage, révisé le 28 juin 2018. Ce projet est à présent soumis pour avis à la consultation des personnes publiques et organismes visés à l'article L212-6 du Code de l'environnement dans la commune de Verberie. À l'issue de cette phase de consultation et de l'examen par la commission locale de l'eau, des avis émis, le projet de SAGE sera soumis à participation publique sur le site internet des services de l'État de l'Oise. Donc vous aviez accès sur le service internet Oisaronde à la totalité du dossier. je rappelle pour mémoire que la commune est sur trois sages. Donc le sage Oisaronde, qui concerne donc l'entrée nord de Verberie, le long de l'Oise, essentiellement. Ensuite, on a le sage de l'Automne, du Sagéba, donc là qui concerne toute la rivière Automne jusqu'à l'Oise aussi. Et puis on a, mais alors là c'est anecdotique, on a le sage de la Nonnette. Lui, il n'y a même pas de rivière, il n'y a rien. Enfin, c'est le plateau là-haut.
Pour ceux qui ne seraient pas les sages, ce sont les bassins versants.
Alors, effectivement, les sages s'appuient sur des bassins versants. On ne rentrera pas dans la définition du bassin versant, ce n'est pas toujours très simple. Est-ce qu'on considère le dessus? Est-ce qu'on considère le sous-sol? Enfin, sur les zones de restriction d'eau, etc., ça pose des problèmes. Bon, toujours est-il qu'on n'est pas là pour ça. Moi, honnêtement, j'ai participé à pas mal de séances du bassin Oisaronde. De toute façon, on travaille très très bien avec ce sage-là, avec le syndicat mixte Oisaronde, qui est efficace. Moi, je n'ai pas de remarques particulières à émettre sur leur sage, qui, pour rappel, comprend les marais de Sassy. Enfin, c'est pas Verberie, mais bon, c'est un site particulier, en particulier pour les affaires des zones humides, puisqu'il est maintenant site Ramsar. Donc c'est une référence de très haut niveau dans les zones humides. Et donc tout ça, c'est effectivement le Oisaronde. Voilà. Je ne sais pas si certains ont été regardés. Donc je vous propose d'émettre un avis favorable. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Les alouettes. Donc les alouettes, Monsieur le Président expose à l'Assemblée qu'il serait souhaitable d'établir un règlement et des conventions pour l'utilisation de la salle de sport. Règlement intérieur, convention de mise à disposition. Donc, je passe la parole à Madame l'adjointe à l'animation, à la culture, sur ce sujet-là.
Vous avez reçu donc les différents documents. Je vous propose pour le règlement intérieur de la salle des sports deux petites modifications. Dans l'article 3, la salle des sports peut être utilisée de 8h30 à 20h30. Et on rajoute « sauf en cas de compétition ou de manifestation exceptionnelle ». C'est-à-dire que ça pourrait aller au-delà de 22 heures en cas de compétition ou de manifestation exceptionnelle. Par exemple, la salle de sport est beaucoup utilisée par l'association de basket. Ils auront énormément de matchs à la prochaine rentrée 2018-2019. Et il se peut qu'ils débordent au-delà de 22 heures. Donc il y a ce point qui est à rajouter. Et également, dans l'article 16, il y a toute une liste d'interdictions. Il y avait notamment l'interdiction d'utiliser des appareils de cuisson destinés à la confection ou au réchauffage de nourriture à l'intérieur de la salle. En fait, cet article-là, on va également le supprimer. Non pas parce qu'on va y faire de la cuisson, mais parce que quand il y a des compétitions, par exemple, le basket réchauffe des crêpes pour faire de la trésorerie au moment de sa vente à la buvette. Donc s'ils ne peuvent pas réchauffer les crêpes, évidemment, ils ne feront pas de trésorerie puisqu'ils ne vendront pas ces crêpes. Il y a simplement cet article-là donc à supprimer. Et pour tout le reste, c'est ce que vous avez lu, ce que vous avez reçu.
Ça arrive aussi pour certaines associations de parents d'élèves.
Oui, l'association de parents d'élèves, enfin voilà, toutes les associations réchauffent des crêpes. Alors bien évidemment, comme il est écrit, on ne mange pas au milieu du terrain, on mange à la périphérie du terrain ou sur l'extérieur de la salle.
Petite question, après 22 heures... S'il y a des compétitions, qui va gérer la salle après ces heures-là?
C'est sous la responsabilité de l'association, comme ça se faisait déjà cette année.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est l'association qui a la responsabilité de fermer de s'assurer que les lumières sont fermées, les robinets, les, aucun
la,
fluide.
La gardienne n'intervient pas
Non, au-delà, la gardienne n'intervient plus. C'est sous la responsabilité de l'association.
Et si je ne me trompe, c'est la politique qui était déjà appliquée dans la salle d'Agobert.
Tout à fait. Et qui était déjà appliquée dans cette salle-là aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Vous avez des questions ?
Bon, je propose de passer au vote. Donc, Monsieur le Président propose à l'Assemblée de mettre la salle des sports Les Alouettes à la disposition du collège et des écoles en priorité, puis des associations sur les créneaux hors scolaires, d'approuver le règlement intérieur, d'autoriser le maire à signer les conventions de mise à disposition à venir avec les associations. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Le rapport d'activité du SE 60. Donc là, Madame Javoux, je vais vous demander de me passer le rapport. On ne va pas le commenter en détail. De toute façon, il est accessible à tout le monde. Vous pouvez le lire intégralement. Je vais simplement dire deux petites choses. Bon, le premier événement, qui est un événement malheureux pour le syndicat, c'est son président qui est décédé en cours d'année, donc M. Bishop, et c'est Éric Guérin qui a repris la présidence du SE 60. Voilà. Les autres points plus opérationnels qui concernent Verberie, bon, on en a déjà parlé, il parle des bornes de recharge électrique qui sont installées, 97 bornes en moins d'un an, dont une borne sur Verberie, voilà, qui permet de recharger deux véhicules. Ensuite, un autre point, c'est sur ce qui est maîtrise de la demande en énergie et énergie renouvelable. Donc, on leur a confié la compétence il y a quelque temps, je ne me souviens pas de la date du conseil municipal, mais s'il y a quelques mois. Et comme on leur a conféré la compétence, eh bien, on a droit à un état des lieux énergétiques gratuit des bâtiments communaux, donc un audit, en fait, audit qu'ils sont en train de conduire à l'heure actuelle. On attend les résultats de l'audit aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est l'autre point. Dernier point. Question diverse. Donc je la cherche. En questions diverses. Donc, monsieur Lamy, en question diversion, mais c'est divers, je pense, souhaite obtenir le détail de l'opération Festival des Forêts, coût direct, indirect, détail des fréquentations et recettes. Voilà. Sur cette affaire-là, on le prend en compte. Je rappelle quand même que les questions doivent être envoyées, là, c'était avant lundi 12h. Il est exact, monsieur Lamy. Il était 14h, mais on a la courtoisie de la prendre en compte. Voilà. Donc, je cède la parole à madame l'adjointe à la culture et à l'animation.
Alors, au niveau, pour l'année 2018, le coût de cette opération est de 6 726,26 €. Concernant les heures de supplémentaires techniques, police, ménage, rangement du matériel, le coût est de 1 085,26 €. Le festival lui-même c'est-à-dire ce que la ville paie à l'association Festival des Forêts. Le coût est de 5 000 euros. Au niveau des entrées, cette année, nous avons pris en charge 641 euros, soit 62 personnes de verberie à 10 euros la place, plus 21 euros de TVA. L'année dernière, pour information, il y avait eu 25 personnes de verberie qui avaient pris des places à 5 euros. Donc cette année, nous en avons 62. En plus, le coût était à 10 euros. Et c'est pour les adultes, puisque les enfants de moins de 12 ans ne payaient pas. Et il y avait environ une dizaine d'enfants de moins de 12 ans présents sur cette soirée. Ce qui fait un total de 72 sauterillos.
Sur l'effectif global qui a assisté, il y avait à peu près entre 500 et 600 personnes, c'est ça ?
600 personnes.
600 personnes qui ont assisté à cet événement. On peut ajouter qu'en 2017, cet événement avait coûté 6 240 euros.
C'est ça.
Et en 2018, donc 6 726, soit un peu moins de 500 euros en plus. Dû en partie à une meilleure fréquentation, puisque quand on fait le différentiel entre ce qu'on a payé pour les entrées, on retrouve les 500 euros en question. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter encore ?
Ce que je peux ajouter, c'était la qualité du spectacle. Pour ceux qui ont pu y assister, c'était vraiment un spectacle quasi grandiose, parce que on a eu l'opportunité d'avoir un vidéo mapping sur la façade du château. Je pense qu'on ne pourra pas avoir cette opportunité tous les ans. Monsieur le président de l'Arc, Monsieur Marigny, était présent. Et il était vraiment stupéfait de la qualité du spectacle. Comme toutes les personnes présentes d'ailleurs, chacun est reparti avec de la musique et des lumières, la musique plein les oreilles et de la lumière plein les yeux.
Pour en avoir un aperçu, vous allez sur le site Facebook du Château d'Aramon, il y a une vidéo de ce qui s'est passé à ce moment-là, avec Carole Beffa, et puis en même temps le vidéomapping qui avait lieu, et qui a été en partie financé par la région des Hauts-de-France. Donc,
c'est aussi une vitrine de présenter des spectacles de cette qualité sur Verberie. C'est une vitrine pour la ville. Des personnes à cette occasion demandent d'ailleurs si le château est loué. On retrouve des locations de personnes extérieures qui sont intéressées, qui voient le château, qui voient le parc, et qui sont très surpris de trouver ça dans une ville comme Verberie.
Moi, je dirais qu'il faut savoir se montrer. Il ne faut pas en faire des dizaines. C'est l'occasion. Et puis, je vais encore ajouter quelque chose, c'est qu'en ce moment, il y a un audit qui est en cours sur le château. Hein, ça avait été voté au budget, si vous avez en mémoire. L'audit est en cours, et il fait apparaître que dans la portion centrale, a priori, nous avons quand même des points faibles et qu'il y a des travaux qui devraient être menés en urgence, notamment, c'est pas terminé, donc on a juste les premiers éléments, mais il y a peut-être sur la toiture, notamment, des endroits où il y aura des interventions assez lourdes à faire. Toujours est-il que dans ce cadre-là, on a déjà commencé d'ailleurs ce travail. On va demander des subventions à la région des Hauts-de-France. Le dossier est déjà en cours, ça passe par l'ARC, et on attend bien sûr la fin de l'audit pour formaliser tout ça. Là il y a beaucoup de monde qui est venu, il y a aussi des élus qui étaient présents, et quand vous présentez demain un dossier de subvention dans ce cadre-là, ça a un autre impact que si ça se voit, les autres ne le voient pas, etc. Donc ça participe aussi, effectivement, je le pense très très fortement, à accroître nos chances d'avoir une subvention pour cette partie centrale. Pas dit que c'était gagné, mais je dis que ça augmente les chances. Si jamais on reste entre nous dans notre coin, ne vois pas pourquoi la région apporterait des subventions sur ces affaires-là.
Puis cette ligne-là fait partie des lignes de façon manifestation, ce n'est pas un budget supplémentaire.
Bien sûr.
Ah non, ce n'est pas un budget supplémentaire,
ah non,
ça rentre.
Non, ce n'est pas un budget qui est improvisé, qui est voté, hein. Il est dans le budget animation, culture animation.
Voilà sur cette question.
De voir qu'il y a une nette évolution par rapport à l'année dernière.
D'autant que le prix était deux fois plus cher que l'année dernière.
Oui, peut-être aussi que le type de spectacle était plus facile d'accès pour une partie de la population aussi.
Non, le spectacle n'était pas plus facile cette année que l'année dernière.
Je sais pas, peut-être que le côté marketing a attiré plus de monde, ouais. Parce qu'il y a une autre lecture du spectacle, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, compte tenu de la dépense, même si c'est une dépense, mais on peut quand même se satisfaire qu'il y ait une augmentation de la fréquentation, en tout cas des administrés de Verberie, donc c'est pas la même chose que un point qui est positif.
Oui, pardon, je t'en prie.
Et on peut. C'est quelque chose qui va rentrer dans les mœurs, dans l'esprit des personnes, de venir à un spectacle de qualité. Et l'année prochaine, on peut imaginer, avec ces chiffres, qu'il y ait davantage de personnes encore.
C'est en semaine, encore. J'étais en vacances,
Comment ?
C'était le, oui, le 11 juillet.
C'était le 11 juillet.
En fait,
la date, ce n'est pas nous qui la choisissons. C'est le Festival des Forêts qui choisit la date.
J'ai une remarque de personnes qui m'ont montré, qui trouvaient dommage, effectivement, que c'était en plein milieu de semaine parce qu'ils n'ont pas pu se déplacer. Voilà.
C'est bien pour ça que je vous précisais que la date n'est pas choisie par la ville, mais par le Festival des Forêts. Eux, ils ont un programme sur leur festival de 15 prestations sur le mois. Et après, ils sont obligés d'équilibrer sur toutes les villes qui participent.
Ça fait bien de essayer de se positionner pour la prochaine fois sur une date qui soit plus favorable pour espérer plus de fréquentation.
Alors, ouais. Il faut regarder. Ceci dit, on peut aussi aller un mercredi soir, une journée, si effectivement tous les jours. Enfin, voilà. On peut aussi y aller un jour en semaine. Pour nous, les jours de week-end et les vendredis, pendant cette période-là, ça présente quand même un petit inconvénient. C'est que normalement, tous ces week-ends, le château est loué.
Là, en semaine, le château n'est pas loué.
Hein. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, je ne partage pas vraiment votre avis sur peut-être que le spectacle a été plus, plus attirant, enfin plus mobilisateur. Je pense que l'an dernier, avec l'embrasement du château, c'était quelque chose qui était aussi extrêmement mobilisateur. Pour avoir assisté aux deux spectacles, ils étaient, à la limite, le spectacle de l'an dernier était peut-être plus facile d'accès en termes musical.
Oui.
Mais là, c'était. Enfin, ceux qui n'ont pas été voir sur la vidéo, allez voir, parce que c'est magique. Je dis bien, c'est magique.
Oui,
c'était magique, ce
passage.
C'était
magique, tout à fait.
Bon, maintenant, il faut aussi que, quand un événement arrive, la première année, il y a 25 personnes. La deuxième année, les gens prennent l'habitude, ça devient un rendez-vous, ils sont 60. Ils voient que finalement, les places étaient du coup d'une place de cinéma. Hein, et c'était gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Oui.
Donc, c'est quand même... On essaie justement, je pense que c'est une bonne chose, d'avoir monté la participation de la ville à 10 euros pour le rendre encore plus accessible. Ça, ça a peut-être joué aussi.
L'année dernière, le billet.
Bon, dans les informations.
Je vais y aller envoyer une question
une fois remis. Mais bon, vous voyez qu'elle a quand même été prise en compte. Bien. Dans les informations, la première information que je voudrais donner, c'est que malheureusement, et j'étais en vacances à ce moment-là d'ailleurs, nous avons eu le décès d'un personnel communal, puisque Madame Port est décédée de maladie, maladie qui... d'ailleurs, a été, dans son évolution, extrêmement rapide.
Très brutale.
Et très brutale. Voilà, donc Madame Port, on la voyait régulièrement, hein, hormis le ménage, elle était aussi aux commémorations. C'est elle qui mettait en place la, j'allais dire, la buvette, c'est pas le terme que je cherchais, la petite réception qu'il y a toujours au centre social. Voilà, donc bon, on pense bien à elle. Et voilà, beaucoup de regrets, c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter. Sans problème. Voilà, ça c'était la première des choses que je tenais à mentionner. Ensuite, je vais simplement faire une lecture d'un document que j'ai reçu et j'en ferai la lecture, je ne ferai pas de commentaire, on verra après. C'est un document pour lequel je suis en copie, qui a été adressé par la Fédération régionale des MJC à Madame la Présidente de la MJC. Ce courrier dit les choses suivantes. Il est signé du président de la Fédération régionale des MJC. J'ai pris connaissance de l'échange de correspondance que vous avez eu avec monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale de l'Oise au sujet d'un accueil collectif de mineurs. Je constate que ce n'est malheureusement pas la première fois que les services de la DDCS interviennent pour vous rappeler la réglementation. Deux accueils collectifs de mineurs ont d'ailleurs été l'objet d'un arrêté préfectoral. Je tiens par ce présent courrier à vous informer que la FRMJC Picardie ne cautionne absolument pas les pratiques de la MJC de Verberie. Ces pratiques sont bien évidemment contraires à la réglementation, mais aussi aux modalités de mise en œuvre du projet éducatif des MJC, basé sur la co-construction des politiques publiques et leur mise en œuvre. Par ailleurs, dans le cadre du travail de repositionnement des accueils collectifs de mineurs de la MJC, travail mené par Laurent Tout-le-Monde et Jean-Michel Battier, ceux-ci ont relevé d'autres points alarmants, composition du conseil d'administration non conforme au statut, absence de perspective en termes de gestion de ressources humaines et financières pour ces accueils collectifs de mineurs à la suite de la restriction de l'accès aux emplois aidés. Par ailleurs, je vous confirme que M. Sylvain Dubois est en arrêt de travail jusqu'au 31 août. Après, ça concerne cette affaire-là. Donc, je vais le passer. Voilà, je prendrai en septembre l'initiative d'une rencontre entre les bureaux de la FRMJC et de la MJC de Verberie. Donc aujourd'hui, moi, j'ai demandé à rencontrer la présidente. Je pense qu'elle va prendre rendez-vous pour qu'on puisse la rencontrer et avoir un échange à ce sujet. Voilà, à ce sujet. Et on en profitera aussi, d'ailleurs, pour un échange financier, puisque je rappelle qu'on avait dit qu'on reverrait la subvention. Hein. Donc, évidemment, on va faire d'une pierre deux coups. Voilà. Je ne fais pas de commentaires, j'attends de voir les réponses, effectivement, que formulera la présidente sur ce dossier.
Excusez-moi, quand même, une petite question, c'est sur les remarques de la DDCS, vous en avez une copie ?
Je n'ai pas eu... j'ai eu des échanges, j'ai téléphoné, quand vous recevez un tel courrier, qui en plus, j'étais en copie, et monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale aussi. Donc, oui, j'ai eu des échanges verbaux avec le directeur de la DCCS.
Ok. C'est sur des questions de sécurité
C'est sur des questions de déclaration, sur des questions voilà, qui touchent aussi à la sécurité. Oui, enfin, quand une déclaration, c'est obligatoire, c'est d'ailleurs puni de fortes amendes, voire de peine d'emprisonnement. Je ne vous dis pas s'il se passe quelque chose avec un enfant alors que vous n'avez pas fait la déclaration qui est obligatoire. Voilà. Toujours est-il que, voilà, on va lui demander un peu de nous expliquer tout ça. Deuxième courrier qui n'a rien à voir. J'ai donc reçu un courrier du maire de Saint-Jean-Bois, comme tous les maires de l'Arc. Mesdames, Messieurs, chers collègues, depuis plus de deux ans, nous luttons contre des incivilités. Chaque fin de semaine, nous avions des sacs blancs distribués par l'Arc déposés à différents endroits du village. Nous avons mis des panneaux d'information sur l'interdiction de panneaux sauvages, de respecter les jours de collecte avec le risque d'amende pour le contrevenant. Nous avons systématiquement ouvert les sacs chaque fois que nous retrouvions des litières de chats avec un poids non négligeable. Grâce à la vidéo, nous avons identifié la personne, une habitante de l'agglomération, mais de l'ex-CCBA. Nous l'avons convoquée, elle est venue et nous a expliqué que pour elle, c'était un moyen d'alléger sa facture des ordures ménagères. Pour elle, c'est une pratique courante pour les communes ayant la redevance incitative. Actuellement, nous avons un système qui évite ces indélicatesses. Toutes les semaines, nous ramassons des dépôts sauvages, principalement en bordure de forêt. La SPFC fait, elle aussi, un travail remarquable. Alors, je ne peux pas vous dire ce que c'est que la FC. Je suppose que FC, c'est Forêt de Compiègne, donc Société Protectrice de Forêt de Compiègne. Mon inquiétude est de voir se généraliser ces agissements en cas de maintien de la redevance incitative. La forêt est une limite de village au cœur d'un grand dépôt sauvage. Il faut se poser les bonnes questions sur la redevance incitative et ses conséquences en termes de gestion des dépôts sauvages. À l'avance, je vous remercie, etc. Donc, en réponse à ce courrier, j'ai reçu un courrier du président de l'agglomération qui répondait en fait à M. Leboeuf et qui met les maires évidemment en copie. Vous m'avez fait part ainsi qu'au maire de l'Arc dans votre lettre du 2 juillet dernier de votre inquiétude vis-à-vis des dépôts sauvages sur votre commune et de la question du maintien ou non du système de redevance incitative actuellement en place sur les 6 communes de la Basse-Automne historique. Pour rappel, avant la fusion, l'Arc historique levait la taxe d'enlèvement des ordures ménagères TEOM, tandis que la CCBA avait institué une redevance d'enlèvement d'ordures ménagères incitative REOM à la pesée depuis le 1er janvier 2011. Suite à l'entrée en vigueur de la fusion, l'ARC a conservé, comme elle en a la faculté suivant le Code général des impôts et le Code général des collectivités territoriales, les deux modes de financement, 5 ans maximum suite à la fusion, soit au 31 décembre 2021, afin de s'accorder le temps d'étudier le mode de financement adéquat. À ce sujet, je tenais à vous informer qu'une assistante à maîtrise d'ouvrage a été lancée pour étudier le passage de l'ensemble des communes de l'agglomération Basse-Automne comprise au régime de la TEOM, et ceci dès 2020. Le démarrage de cette prestation aura lieu, alors cette prestation, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage, aura lieu en octobre de cette année. Donc voilà, alors on a voté effectivement cette assistance à maîtrise d'ouvrage. Moi, je n'avais pas retenu explicitement qu'elle s'intéresserait qu'à la TEOM. Elle va, je pense, s'intéresser à tout, faire un point global. Mais voilà, je tenais à vous lire le courrier signé de M. Philippe Marigny, président de l'agglomération, suite à la lettre du maire de Saint-Jean-Aubois.
Le problème, excusez-moi, mais j'entends la remarque, mais dire que les dépôts sauvages, c'est la commune, non, ce sont des incivilités. Ça fait très grosse nuance.
Pardon, dire que les dépôts... J'ai pas bien
compris. Les dépôts sauvages, c'est la commune, non, ce sont les gens et leurs incivilités. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont très bien et qui respectent les règles, qui ne font pas de dépôts sauvages.
Je suis d'accord.
Donc il faut pas... Je pense qu'à un moment donné, ça aide. Si on veut parler de ces sujets-là, il faut ouvrir le débat et pas se contenter de dire que les dépôts sauvages, c'est la commune ou une mairie ou autre.
Là, je vous ai fait lecture d'un courrier. Alors, un peu en contradiction avec ce que vous dites, mais je suis tout à fait... voilà, on met pas ces déchets dans la nature. Après, on évoque des gens qui ont des problèmes financiers, etc. À un moment donné, si effectivement, entre payer l'alimentation, payer les déchets, à mon avis... Alors, je dis pas que c'est le cas de tous. Hein. Attention. On serait bien étonné d'ailleurs si on avait peut-être la liste des gens qui procèdent de cette façon-là. Mais c'est aussi un cas qui peut se présenter. Maintenant, il existe aussi des CCAS, mais là aussi avec parcimonie. Parce que bon, on doit payer sa facture de déchets.
Ah, et j'en crois que lorsqu'on met en place l'Atomi, il se trouve à payer des déchets et avant. Pas sur la ligne, mais payer.
Oui.
C'est les déchets sont payés, c'est la répartition qui change de la facture, c'est tout.
Le principe, quoi qu'il en soit, de l'incitatif, ça a quand même vocation à limiter le déchet final et surtout à créer une vanne pour les sociétés dans la revalorisation.
Bon, on pourrait reprendre, c'est pas le but, hein. J'ai vu que la CCPOH avait fait le choix d'une redevance incitative à la levée.
Après,
puisque les gens ne vont plus trier. Bon, c'est bien évident. On va revenir à l'ancien système, puisque tout le monde veut. Tout le monde bon. Mettra, vend, et on se retrouvera de nouveau à 300.
Alors, bon, je vous trouve un peu pessimiste. Alors, qui a un certain recul, je pense qu'il y a un risque.
Quand on a la possibilité d'avoir un compte
Avec l'incitatif, c'est un levier. Et en fait, le but du jeu, c'est justement de jouer sur ce levier pour essayer de conduire les gens à faire plus d'efforts. Alors que quand il n'y a pas de levier,
c'est pour ça que le levier du paiement à la levée, c'est oui. peut-être autre chose que du paiement comme c'est fait actuellement.
Alors, attendez, juste en conclusion, parce que là, si on est parti pour deux heures de débat, juste en conclusion, il est évident qu'on va suivre de très près cette étude, qu'on informera le conseil municipal de ce qui s'annonce. Mais bon. Dernier point, alors on n'en fait plus directement partie, mais ceux qui veulent le consulter. Ceux qui veulent le consulter, vous avez le rapport d'activité de l'ETB. Maintenant c'est comme ça, hein. L'EPTB. Établissement, le dernier c'est Bassin et TPT, j'ai oublié.
Entente Oisenne.
C'est l'entente Oisenne, 2017. Voilà. Et vraiment, dernier point, j'espère, j'aurais pu le dire en introduction, j'espère que vous avez toutes et tous passé de bonnes vacances. Et désolé d'avoir provoqué un conseil municipal aussitôt, et qui fait repartir assez rapidement. Mais en tout cas, merci de votre présence et merci du temps que vous avez consacré à la commune. Voilà. Bonne soirée. La séance est levée.